Okay. Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le chapitre 50. On s'est arrêté à Veiné Mikan, d'accord ? Veiné Seder. Voilà, ici, Veiné Seder Avoda. Non, c'est juste avant. Voilà. Veiné Mikan Yatsa Shorash Alevim le matin. Je vais faire un petit point où on en est. Dans le chapitre 50, on a expliqué la différence qu'il y a entre la manière de servir à Kadosh Baruch Hu des Tzadikim et la manière comment le commun des mortels, donc 99,9% des gens, vont servir à Kadosh Baruch Hu. On a expliqué que c'est pas simplement une différence de quantité. Il y a des fois des gens, ils pensent que qu'est-ce qui fait la différence entre un tzadik et moi ? C'est que c'est comme si on avait expliqué la différence financièrement. Le tzadik, il a beaucoup d'argent, et moi j'ai moins d'argent. On a expliqué que c'est pas du tout ça. C'est pas une différence de quantité. C'est pas que le tzadik, il a beaucoup de crainte de Dieu, ou beaucoup d'amour de Dieu, et moi j'en ai moins. On a expliqué que c'est carrément une ligue. Deux choses complètement différentes. Et qu'est-ce qu'on a amené comme exemple ? On a amené l'exemple de l'or et de l'argent. L'or et l'argent. On a dit de la même manière que, quand je te parle de l'argent, je parle du métal de l'argent. De la même manière, on a expliqué la semaine dernière qu'on ne peut pas comparer l'or et l'argent. Tout le monde sait que l'or vaut beaucoup plus que l'argent, mais ce n'est pas seulement ça. On a dit que l'or, c'est une certaine brillance, c'est un certain charme que l'argent ne pourra jamais avoir. L'or, ça restera toujours de l'or. D'accord ? L'or, ça ne peut jamais s'oxyder. Enfin, l'or, c'est spécial. D'accord ? Donc, on a expliqué que de la même manière, c'est la différence qu'il y a entre les tzadikim et le commun des mortels. C'est quoi la différence ? Voilà, je fais un résumé parce qu'on a expliqué la semaine dernière longuement. On a expliqué que les tzadikim, c'est comme... Enfin, on va commencer plutôt par le commun des mortels. Le commun des mortels, c'est comme de l'argent. Kesef, en hébreu, ça veut dire de l'argent. On a expliqué que Kesef, c'est avec David.
Oui.
Kesef, ça vient du mot aussi... L'envie vers Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on a expliqué que la grande différence qu'il y a entre le tzaddik et nous. On a dit que le commun des mortels, la manière comment il sert Akadosh Baruch Hu, c'est que, bon, lui il vit au jour le jour. On vient de commencer.
Il a une valise, mais franchement.
On a expliqué la différence qu'il y a entre le tzaddik et le. Entre le tzaddik et le commun des mortels, on a dit que le commun des mortels, la manière comment il sert Akadosh Baruch Hu, c'est que, bon, on lui a appris qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu, il essaye de faire que Kadosh Baruch Hu soit présent dans sa vie. Comment il va réussir ? Eh bien, il va essayer d'étudier la Torah, d'étudier les mitzvot. Ça veut dire qu'en d'autres termes, par défaut, par définition, allez messieurs, on est au courant, par définition, d'accord ? On parle d'une personne comme nous, on n'est pas des tzadikim, enfin en tout cas moi je suis pas tzadik, parce que je t'explique, Yaakov, c'est le tzadik du cours. Chaque fois qu'on parle d'un tzadik, on parle de Yaakov. Chaque fois qu'on parle d'un tzadik, on prend comme exemple Yaakov, et chaque fois qu'on va prendre un exemple Racha, on prend moi comme exemple.
C'est moi le Racha.
Non, s'il vous plaît, Mettez-vous d'accord.
Il n'y a que des Benoni.
Amen.
Passons une parenthèse, j'ai lu la semaine dernière une histoire d'un rav qui s'appelait Rabbi Meir Belijinsky. Bon, c'est pas un nom séfarade. Hein. Il habite en Israël, il y a une quinzaine d'années. Il a raconté l'histoire suivante qu'il a entendue au nom du rabbi précédent. Il a dit, le rabbi précédent pose la question suivante. Il dit, comment ça se fait que dans la Gemara, on parle de 5 catégories ? On parle, vous vous rappelez ce qu'on a étudié dans le premier chapitre du Tanya. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je vais vous rafraîchir la mémoire. On avait parlé de 5 catégories. Il y avait le tzaddik parfait, le tzaddik imparfait, le rachat, malheureusement complet, rachat incomplet, et le benoni. Là, il a posé la question au rabbi précédent, il a dit, pourquoi on ne parle pas du chassid ? Et le chassid, il est où dans tout ça ? Alors, c'est une réponse à prendre avec des pincettes, parce que c'est très très profond comme réponse. Le rabbi précédent a répondu la chose suivante. Il a dit, le chassid n'est pas inclus, parce que le chassid, il peut être les 5 en même temps. Des fois, il peut être un grand tzadik, des fois, il peut être un tzadik incomplet, des fois, il peut être un rachat incomplet, des fois, il peut être un rachat complet, et des fois, il peut être un benoni. C'est très très fort comme réponse. C'est-à-dire que quand on est chassid, on peut être tout en même temps.
C'est voulu ou pas ?
Ah, c'est la courbe. C'est l'idée de la courbe, mais bon.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il peut démarrer de 5.
Non, c'est qu'il, dans sa vie, il va passer par les 5.
Ah, il va passer par les 5.
Attention, on a expliqué le rachat, c'est celui que, bon, c'est le mal qui est en lui, etc. Bon, c'est un niveau déjà. J'ai lu ça la semaine dernière et c'est... Bon, j'ai trouvé que c'était un mot très, très puissant. Mais bon, j'ai pas trop le temps de le développer. En tout cas, ce qu'on a expliqué, la différence qu'il y a entre l'or et l'argent, c'est comme la même différence qu'il y a entre les tzadikim et les hommes simples, on a dit que, enfin, les gens du peuple, que nous, quoi, 99% des gens, que nous, de la manière comment on sert à Kadosh Baruch Hu, c'est comme de l'argent. Ça veut dire que finalement, ça veut dire quoi, c'est comme de l'argent? C'est-à-dire que nous, finalement, la majorité de la journée, on est occupé par nos affaires, par notre business, par nos femmes, par nos enfants, etc. On est occupé par ça. Sauf qu'on va faire un effort dans la journée, on va dire, bon, maintenant je vais faire un effort, je vais étudier la Torah. C'est-à-dire que l'effort va s'exprimer dans quoi? L'effort va s'exprimer dans le fait que le juif va dire, bon, je vais essayer d'exprimer mon attachement à Dieu en étudiant la Torah, en faisant une mitzvah, en faisant la tefila, etc. Chez le tzaddik, comme on va le développer encore plus aujourd'hui, on n'a pas pu le développer trop la semaine dernière, c'est pile le contraire. Chez le tzaddik, par définition, il a toujours envie de s'annuler à Dieu, de partir de ce monde. Et c'est quoi son effort? Son effort, c'est de redescendre sur Terre. C'est pas du tout la même lutte que nous. Nous, notre effort, c'est d'essayer de... Ça veut dire, nous, on est en bas. On est dans ce monde ici-bas, on est bien attaché en bas. Et notre effort, c'est de temps en temps d'essayer d'appuyer sur le ressort pour sauter un petit peu. Ça, c'est notre effort. Le tzaddik, c'est le contraire. Le tzaddik, il est déjà en haut. Il est constamment en train de vouloir monter en haut. Et son effort, c'est de tirer le ressort pour le faire descendre en bas. Donc aujourd'hui, on va développer le travail du tzaddik. Donc la semaine dernière, on n'a pas expliqué la différence entre l'or et l'argent. Cette semaine, on va expliquer la différence qu'il y a entre ratso et shop. Peut-être en guise d'introduction avant de commencer le cours d'aujourd'hui, puisqu'on est la semaine juste avant pour une. D'accord. Je voulais vous raconter une Gemara, quand la Gemara dans le traité Megillah. Quelque chose a priori qui est très étonnant à comprendre. Et on va voir comment, grâce au cours de Tania, on va peut-être un peu mieux comprendre ce qui se passe dans cette Gemara. La Gemara dans le traité Megillah raconte la chose suivante. Elle nous dit que Rava a dit, un homme a l'obligation de se saouler à Purim, ad Eloyada, jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de distinguer entre Aman et maudit et Mordechai et béni. C'est-à-dire que bon, il a perdu complètement le sens des valeurs. Bon, la Gemara dit comme ça. Par la suite, c'est pas sur ça que je vais m'arrêter. Par la suite, la Gemara raconte une histoire. Elle dit que Rava, d'accord, et Rabbi Zera, c'est même Rava qui vient de dire son enseignement, Rava et Rabbi Zera, ont fait une fois une Seouda de Purim ensemble. D'accord, donc l'histoire est très connue. Ils se sont saoulés. Donc, deux rabbinim qui sont invités l'un l'autre. D'accord, Rava a invité Rabbi Zera, ils se sont saoulés. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que, la Gemara nous raconte, Rava s'est levé et il a fait la Shrita à Rabbi Zera. Bon. Pour l'instant, nous, quand on entend Shrita, ça veut dire il a pris un couteau et il a
zigoué.
D'accord. Bon. Le lendemain, Rava se réveille, donc apparemment il a dormi toute la nuit. Quoi. Le lendemain, Rava... Je vous raconte l'histoire dans le pshat, dans le sens simple, après on va devoir expliquer, parce qu'on ne parle pas ici d'un gangster, on parle de Rava.
Il faut dire tout de suite, c'est chose qu'il ne faut pas faire.
Ah, attends, non, je ne sais pas. Bon.
Tu as raison pour le jeune.
Oui, il peut être choqué.
Les enfants ne peuvent pas suivre.
Donc le lendemain, Rava se lève, et il voit son collègue mort. Ah, il le voit par terre, quoi. Donc il demande pitié à Kadosh Baruch Hu, il dit écoute, il faut faire quelque chose, et Dieu il fait un miracle, il se réveille, il se lève. Bon. L'année suivante, raconte la Gemara,
il le réinvite.
Rabbi il invite Rabbi Zera. Il lui dit, est-ce que tu veux passer la Seouda de Purim chez moi? Alors on s'attendait à ce que Rabbi Zera, il décolle une droite à Rava, il lui dit, dis-moi, t'avais la tête que tu m'invites, qu'est-ce que tu veux me tuer cette année encore? Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Zera? D'accord? Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Zera? Rabbi Zera, il répond à Rava, hein, il lui dit, écoute, tu sais, c'est pas chaque fois que Dieu fait un miracle. Donc en d'autres termes, je me dis peut-être tu vas me tuer, et je me demande, je sais pas si après que tu m'as tué, tu vas réussir à me faire ressusciter. Donc vous comprenez, bon, et comme ça l'histoire s'arrête. La Gemara s'arrête, après elle passe au sujet suivant. Donc, vous comprenez, je cherche quelque chose?
Voilà.
Ça, c'est, là, je vous montre le
fait.
Alors, d'emblée quand on raconte cette histoire, on comprend tout de suite que c'est une histoire qui est bizarre. Une histoire qui est très bizarre. Et comme vous pouvez vous imaginer, la majorité des commentaires s'arrêtent sur cette histoire pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est-à-dire quoi? On parle d'un gangster, on parle de Rabat. Comment Rabat a pu tuer quelqu'un? C'est-à-dire quoi? Il l'a tué vraiment? Alors il y en a qui expliquent que non, en vérité, il l'a pas tué, qu'en vérité, c'est spirituellement, et il lui a expliqué quelque chose de très profond, et du coup, il n'a pas tenu. Mais bon. En effet, c'est très difficile d'expliquer ça, puisque la Gemara emploie bien le terme Rava, il est venu, il a fait la Shrita. Quand on dit fait la Shrita, ça veut dire quoi? Il l'a tué. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé ici? Comment on peut expliquer cette histoire? Et là, pour expliquer ça, ça c'est le Rabbi dans l'Écoute des Sirot, volume 31, il fait appel à l'histoire qu'on a racontée la semaine dernière de Nadav et Avihu. Hein? Qu'est-ce qu'on a raconté la semaine dernière de Nadav et Avihu? On a dit que Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, quand, ce qu'on a dit, les deux enfants de Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, apparemment, ils ont bu du vin, ils ont bu trop de vin, ils sont rentrés dans le Saint des Saints alors que c'était pas le moment de rentrer, et apparemment Dieu les a punis, ils ont été brûlés vifs, d'accord, ils se sont consumés face à Kadosh Baruch Hu, c'était leur punition. Et là-bas, hein, on a amené le Or HaChaim à Kadosh, qui explique la chose suivante. Il dit, ne crois pas que c'était ici deux simples imbéciles qui ont bu et qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient et qui sont rentrés dans le Saint des Saints. Pas du tout. La preuve, comme on expliquait la semaine dernière, c'est que qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu à Aaron, qu'est-ce qu'il a dit ? Il lui a dit, eux deux, ils ont dépassé toi et moi ensemble. Et il dit pas ça simplement pour consoler son frère, c'est pas un menteur, Moshe Rabbeinu. D'accord, c'est pas un pipomane. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il le pense. Alors comment c'est possible ? Alors on expliquait la semaine dernière le Or HaChaim HaKadosh, vous allez voir comment ça va être lié au cours d'aujourd'hui. Le Or HaChaim HaKadosh explique là-bas la chose suivante, il dit qu'en vérité, quand on dit que les deux enfants de Aaron, ils sont morts parce qu'ils ont bu, il explique c'est quoi la boisson. Ça, c'est un point qu'on n'a pas trop expliqué la semaine dernière. Il dit c'est quoi la boisson ? La boisson, c'est le secret de la Torah. Comme c'est écrit, lorsque le vin y rentre, le secret y sort. Donc le secret de la Torah, c'est quoi ? Ça veut dire quoi qu'ils ont bu du vin ? Ils ont bu du vin physiquement aussi, c'est sûr qu'ils ont bu du vin. Ils ont bu du vrai vin, du vin qui vient de la vigne. Mais pourquoi ils ont bu du vin ? Ils ont bu du vin parce que ce vin-là va les aider à dévoiler les secrets de la Torah, à se découvrir et à découvrir des choses qu'ils n'auraient pas pu découvrir s'ils n'avaient pas bu du vin. Comme explique le Shnei Luchot Abrit, dit la chose suivante. Il dit, Zé Shematsinu, je vous dis dans les mots parce que c'est intéressant, il dit, Zé Shematsinu et Tzel Gdoshim Ashaba Aret, Shechatulif Amim Arbeyotar Midai Bisodok Dolot. Il dit, le fait qu'on voit qu'il y a des gens qui sont kadosh, et pourtant on les voit des fois dans des grandes seoudotes, ils vont se mettre à boire. Ils vont se mettre à boire trop. Comment c'est possible qu'ils boivent trop ? Ça choque. Car comment c'est possible ? Alors il dit, Aïta Kavanatam basé le Shem Shemaim. Et leur Kavana est évidemment le Shem Shemaim, ça veut dire pour Akadosh Banrou. Pourquoi ? Kimitor Mishte Ayaïn Ayoum Vatretouva. Parce que quand ils buvaient du vin, c'est ça ce qui leur ouvrait l'esprit. Ou Mitor Kar, d'accord ? Ou Mitor Simcha Megale Achacham Raza Torah. Et lorsque le Chacham est joyeux, ça va lui permettre de découvrir des secrets. De découvrir en soi et de dévoiler des secrets de la Torah. Pourquoi ? Kiberabot asimra, ça c'est la dernière phrase, enfin c'est très long encore, mais Kiberabot asimra, idrazek akoach asichli shiyesh benefesh. Que lorsqu'une personne est besimra, automatiquement son âme est beaucoup plus dévoilée, son âme est beaucoup plus présente. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans un Fabringen, on va dire les chaïm. Quand Shnei Luchot Abrit existe, ne t'étonne pas si tu vois des gens qui boivent, ça t'étonne, surtout des fois ils boivent plus que la mesure. Ils disent que s'ils le font, sache que s'ils le font, c'est pour leur permettre de mieux dévoiler les secrets de la Torah. Donc avec ça, si on suit le même ordre d'idée, le Or HaChaim explique que c'est ce qui s'est passé avec les deux enfants de Aaron. Deux enfants de Aaron, quand on dit qu'ils ont bu du vin, ils ont bu du vin. Si la Torah juste nous a dit qu'ils ont bu du vin, c'est qu'ils ont bu du vrai vin. Mais pourquoi ils ont bu du vin ? Ce vin-là, c'était pour leur permettre d'arriver au secret de la Torah. On leur a reproché ça. Pourquoi on leur a reproché ? Rappelez-vous ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Parce qu'on a dit que... Même si ils avaient envie, leur Neshama avait envie de partir de ce monde, qu'est-ce qu'on a dit ? Ils devaient tout faire pour arrêter cet élan-là et pour refaire descendre la Neshama. Ça veut dire comme ça. Le tzadik, des fois, sa Neshama a envie de partir, comme une flamme qui a envie de quitter la bougie. Et lui, et qu'est-ce qu'on a dit ? Le rôle du tzadik, c'est de se retenir et de se refaire descendre. Ratso Vachov. D'accord ? Ce qu'on va développer aujourd'hui, le thème du cours d'aujourd'hui, c'est Ratso et Shov.
D'accord, quel rapport ?
Seconde. Donc, les enfants de Aaron, ils ont eu un élan de Ratso.
Oui.
D'accord, ils ont eu un élan de ratso, un
avec
élan
le vin.
Avec le vin, donc avec les secrets de la Torah. Leur Neshama voulait partir, et ils n'ont pas, d'accord, ils n'ont pas été capables, enfin, ils ne savaient pas qu'ils devaient faire peut-être, ils n'ont pas été capables d'avoir le shov, ça veut dire de tout faire pour redescendre, d'accord, pour redescendre sur Terre. Très bien. Quel rapport maintenant avec l'histoire de Ravé et Rabbi Zera ? C'est exactement la même chose qui s'est passé avec Ravé et Rabbi Zera. Ravé et Rabbi Zera ont bu du vin. Ils ont bu du vin parce que, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, que celui qui boit du vin a Pourim, eh ben, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, il n'y a rien de mal qui arrivera de ça. Non, toute l'année, on te dit, il faut faire attention. Pourim, c'est l'exception. Car on te dit, celui qui boit à Pourim, Bezrat Hashem, il n'y a rien qui arrivera.
Quand on dit vin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire
le
vin lui-même ou ça veut dire
les deux ?
Non mais...
Justement.
L'alcool ou...
C'est l'alcool, d'accord, qui va m'aider, qui va aider Maneshama à se développer, donc qui va aider le vin spirituel à se développer. Mais c'est les deux. C'est les deux. C'est un qui va aider l'autre. Alors écoute bien. Rava et Rabbi Zera. Rava et Rabbi Zera, on a dit, donc il l'a invité son ami, il lui a servi à boire, et on a dit, Rava, il est venu, il a fait la Shrita, Rabbi Zera. Rabbi nous fait remarquer, il nous dit, quand on remarque le terme Shrita, c'est un terme qui n'est pas courant. Normalement, quand on dit dans la Gemara tuer, on dit Kaklé. Mais le terme Shrita, normalement, Shrita, sur quoi on dit Shrita ? Sur les animaux. Des fois que Rava est venu, il a tué Rabbi Zera. Pas seulement ça. La Gemara, là-bas, elle dit, Rava, il s'est levé, et il a fait la Shrita, Rabbi Zera. Il s'est levé, et il a fait la Shrita, Rabbi Zera. Bon, elle explique la chose suivante. Il dit quoi, Rabat? Rabat, ça vient du mot en hébreu grand. Zera, ça vient du mot Zeira en araméen. Zeira, ça veut dire petit. Zeira, comme Zeira en arabe, je crois que ça veut dire petit.
Zara.
Hein? Pas Zara.
Pas d'essence.
Tout à l'heure, j'étais dans un, dans un magasin. J'ai vu quelqu'un, il avait un manteau, c'était la marque Zappa. Et c'était, tu voyais, on dirait le logo Zara. Enfin, c'est...
Zappa.
Zappa. C'est un fake. Bon.
Zappa, ça, moi. Zappa. Zappa.
Donc, Rava et Rabbi Zera. C'est quoi Rava? Rava, ça veut dire que c'est le grand. Rabbi Zera, c'est le son petit ami, celui qui est mort, c'est le petit. Explique le Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé réellement ici? Ce qui s'est passé, c'est que Rava, il a senti que son ami était petit. Alors il lui a dit, je veux te dévoiler des secrets de la Torah. Et il lui a dévoilé des secrets de la Torah. Il lui a dévoilé des secrets de la Torah. Ils ont pris du vin, il lui a dévoilé des secrets de la Torah. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est que la neshama de Rabbi Zera n'était pas prête pour ça. Donc du coup, dès qu'il a eu un trop-plein, c'est pas comme Rava, que Rava, il avait un cerveau qui était assez fort pour supporter tout ça, Rabbi Zera est parti. Mais Rava n'avait aucun problème, il le refaire vivre le lendemain, parce que comment il le refait vivre? Il le fait vivre en le refaisant descendre sur Terre. C'est pour ça que c'était, il maîtrisait la situation. L'année prochaine, lorsque Rava a réinvité Rabbi Zera, il lui a dit, est-ce que tu veux que je te réinvite? Pourquoi il a invité Rabbi Zera? Parce que lui, tu te rappelles l'année dernière ce qu'on a fait? Tu as été capable, toi Rabbi Zera, Zera ça veut dire petit, tu as été capable de sentir les secrets de la Torah. Je sais que tu es parti de ce monde, mais tu as été capable de sentir ça, t'inquiète pas, je suis là pour te refaire en vivre. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Zera? Rabbi Zera, il a répondu, il a dit, je ne suis pas là pour ça. Mon but dans le monde, quand on comprend l'histoire, on comprend complètement autrement, mon but dans le monde, c'est de rester ici-bas sur Terre, et je ne veux pas partir de ce monde-ci, même pas un seul instant. Oui, donc quand on comprend cette histoire, l'histoire de Purim, d'accord, de Rava et Rabbi Zera, on comprend que les tzadikim, ils sont complètement dans un autre monde. C'est-à-dire, nous, c'est, qu'est-ce que je prends, quand je prends un autre verre, comment je vais me sentir, quelle phrase je veux dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pas dire, comment je vais me sentir, est-ce que je vais vomir, est-ce que je vais pas vomir, là, c'est complètement une autre ligue. C'est est-ce que sa neshama a quitté son corps, et est-ce qu'il peut la refaire descendre, est-ce que c'est son but, pas son but. C'est complètement autre chose. D'accord. Alors, pour conclure, ça veut dire quoi? Seconde, ça veut dire que ça c'est la différence entre les tzadikim et nous. Que nous, toute l'année, on est toujours attachés au matériel. Et un jour on va dire, bon maintenant je vais faire une mitzvah, alors je vais essayer de nous détacher du matériel. Chez le tzadik, c'est le contraire. Lui, sa neshama a toujours envie de quitter ce monde. Et quand il fait une mitzvah, c'est pas pour dire, bon je vais faire un effort pour Dieu maintenant, pour monter un peu vers Dieu. C'est le contraire. Quand il fait une mitzvah physique, c'est pour dire, bon, ma neshama risque de partir, il faut que je touche des tefillines, il faut que je touche quelque chose de physique. C'est vraiment, c'est complètement le contraire de nous. Alors on va étudier ça dans les mots, Bezrat Hashem, mais avant ça, on va voir la question d'Yakov.
Oui, ça paraît pas logique, parce que d'une part, t'expliques Nav et Aviou, qui eux, on dit qu'ils étaient plus grands que Moshe et Aaron.
Oui, parce qu'ils étaient capables, oui.
Et d'un côté, tu parles de Rabbi Zera, le petit.
Oui.
Et lui, justement, quand il est parti, il n'a pas pu redescendre.
Sauf que Nadav et Aviou, s'ils n'ont pas fait le chouf, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient faire le chouf. Ils ne savaient pas qu'ils devaient faire le retour. Personne ne leur a dit. Jusqu'à présent, personne n'était arrivé à ce niveau-là.
Donc tu veux dire que l'expérience a été possible
bien sûr,
grâce à eux?
Bien sûr.
Autrement, il n'y aurait pas eu de...
C'est pour ça qu'on voit pas qu'ils ont été punis. Nulle part, on voit qu'ils ont été punis. Ils n'ont pas été punis. On dit simplement que c'était pas bien. Parce que ils ont été l'exemple. Comme plusieurs exemples qu'on a eu dans la Torah. Ils ont été des exemples. Bon.
Alors pourquoi à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait revenir?
Quoi?
Comme il a fait Rava.
Bon, c'était l'exemple. C'était l'exemple. Il était déjà parti. C'est fini. Rabba, il maîtrisait la situation. Oui. On comprend? Comme il maîtrisait, donc quand il a vu qu'il a trop donné, il a été capable de dire, bon, maintenant, je te fais relever. Bon, donc on comprend un petit peu autrement cette histoire. Hein, j'ai pas eu le temps de trop rentrer dans le rabbi explique ça dans 15 pages. D'accord, donc j'ai pas eu trop le temps de trop rentrer dans les détails, mais l'idée, on l'a expliqué. Maintenant, on va reprendre donc notre histoire de tzadikim et de gens simples. Alors, on prend A, donc on est Perek Noun, et on est la ligne qui commence. Par quoi elle commence la ligne?
Bana.
Par quoi elle commence? On a la ligne qui commence, oui. Veiné Mikan. Donc la ligne qui commence, Kalta Nafshi. C'est bon?
C'est bon.
L'or et l'argent. Donc cette semaine, on ne va pas se focaliser sur l'or et l'argent, on va se focaliser sur Ratso et Shov. L'aller et le retour. Ping-pong. D'accord? Ratso et Shov. Donc il dit comme ça. Il dit, Veiné Mikan, Yatsa, Shoresh, Alevim, les matins. Il dit maintenant, si on va analyser, on va voir que c'est ça la différence qu'il y a entre le Kohen et le Lévi. Dans le Beth Amikdash, il y avait si on peut dire, dans la tribu de Lévi, il y avait deux catégories. Il y avait les Kohanim et les Lévi. Très bien. Qu'est-ce qui faisait le Kohanim au Beth Amikdash ? Le Kohanim au Beth Amikdash, il faisait
les sacrifices.
D'accord. Qu'est-ce qui faisait les Lévi ? Ils chantaient.
Ils portaient, ils
chantaient. D'accord. Bon, d'après vous, les Lévi, ils chantaient. C'est vrai, c'est un orchestre. C'est quoi ? Ils servent à quelque chose, les Lévi ? Là, si on compare les deux, nous, quand on voit de loin, on voit d'un côté celui qui amène le sacrifice pour Dieu, et de l'autre côté, le Lévi, bah, c'est celui apparemment qui est en train de chanter. Bon, on dit, bon, le Lévi, on lui a donné un petit job pour l'occuper, mais...
C'est un chanteur.
D'accord, c'est un chanteur. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Il chante pour le Beth Amikdash, mais c'est rien à voir avec le Cohen qui est au devant de la scène. Très bien. Le Harizal nous explique que c'est complètement le contraire.
Ah bon ?
Le Harizal nous dit qu'en vérité, les Lévi'im ont un niveau qui est plus haut que les Kohanim. Et que lorsque Mashiach va venir, d'accord ? Les Lévi'im vont devenir le Kohanim. Je vais expliquer ce que ça veut dire.
Ah oui, explique.
Il explique là-bas la chose suivante. Il dit, c'est quoi la différence qu'il y a entre les Kohanim et les Lévi'im ? Il dit, qu'est-ce qui fait le Kohen ? Le Kohen, il fait le sacrifice. C'est quoi le sacrifice ? Le sacrifice, c'est-à-dire qu'on va faire monter quelque chose chez Akadosh Baruch Hu. C'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure, la différence entre les gens du peuple et les tzadikim. Qu'est-ce qu'ils font les gens du peuple ? Les gens du peuple, ils sont toujours attachés en bas, mais à un certain moment de leur vie, de leur journée, ils vont faire un effort pour dire, bon, maintenant je vais donner quelque chose à Dieu. Ça, c'est le Kohen. Le Kohen, il est là constamment en train de prendre le sacrifice et de faire monter chez Akadosh Baruch Hu. C'est ce que ça représente le Kohen spirituel.
Le Lévi, c'est le contraire.
C'est quoi le Lévi ? Le Lévi, il fait de la musique. D'accord ? C'est quoi la musique ? Dans la musique, si tu prends une musique monotone, qui fait que monter, là, tu prends une musique, tu prends un son, qui fait que monter, c'est pas une musique. Pour que ce soit une belle musique, il faut que ça monte et ça descend. Il faut qu'il y ait une courbe. Il faut que tu montes, après tu descends, après tu remontes, après tu descends. C'est là que ça fait la beauté de la musique. C'est la beauté de Ratso Vachov, c'est la vie du tzadik. La vie du tzadik, le tzadik, il est constamment en train de monter et descendre. Sa neshama, elle veut monter, il la refait descendre. Elle veut monter, il la refait descendre. Nous, on est toujours en bas. Si déjà, quelque temps, on arrive à envoyer quelques petites étincelles en haut, c'est pas mal. Le tzadik, c'est pas du tout ça. Le tzadik, c'est Neshama. C'est pour ça qu'on voit, quand on voit chez les tzadikim, je sais pas si vous avez remarqué, on voit souvent dans leurs yeux, des fois, vous voyez, leurs yeux, ils s'éclairent comme ça tout d'un coup, quelques secondes, après, t'as l'impression qu'ils s'éteignent. Après, ils s'éclairent, après, ils s'éteignent. C'est vraiment quelque chose qu'on voit physiquement. D'accord ? Des fois, tu crois qu'il est avec toi, après, il revient, après, il repart. Et on voit vraiment physiquement. On le voit physiquement. Pourquoi ? Parce que le tzadik, c'est comme le niveau des Lévi'im, c'est comme la musique. Ça monte, ça descend. Donc il dit ici, c'est Veine Mikan Yatsa, Shoresh et Lévi'im les matins. Le premier niveau d'amour, c'est l'amour qui dit que je suis toujours en bas et quand je peux, je fais un effort pour Dieu. Ça, c'est le Kohen. C'est quoi le Lévi ? Veine Mikan Yatsa, Shoresh et Lévi'im les matins. C'est de là qu'est venu, c'est du deuxième niveau, donc le niveau des tzadikim, le niveau des tzadikim qui sont constamment en courbe, en train de monter, descendre, en train de faire un effort pour rester en bas. C'est de là qu'est venu le niveau des Lévi'im en bas. Ou les Hatid Shaolam Itale, Yuhem Akon. Quand ma chère revenir, c'est les Lévi'im qui vont avoir le poste principal. Donc Moshe Katav Arizal, Al Pasuk, Ve Akohanim à Lévi'im. Il y a un verset qui dit, en parlant des Kohanim, il dit les Kohanim, les Lévi'im. Alors il dit, mais je ne comprends pas, c'est les Kohanim ou les Lévi'im ? Soit on est Kohen, soit on est Lévi. On a dit que les Kohanim avaient un poste bien particulier dans le Beth Amikdash, et les Lévi'im avaient un autre poste. Alors, il fait Kohen ou Lévi ? Et le Arizal dit qu'en vérité, les vrais Kohanim, c'est les Lévi'im. Le vrai poste de Kohanim, c'est les Lévi'im. Alors je voudrais peut-être élaborer un peu plus ce point-là pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi cette histoire de différence entre le Kohen et le Lévi'im ? Vous savez, dans la Mishnah, on parle beaucoup de la marloquette qu'il y avait, la discorde qu'il y avait entre Beth Hillel et Beth Shammai. D'accord ? Il y a plusieurs marloquettes, plusieurs dizaines de marloquettes. Pas toutes nous ont été ramenées, mais on sait qu'il y a eu plusieurs dizaines de marloquettes, deux points sur lesquels ils n'étaient pas d'accord, entre Beth Hillel et Beth Shammai. Bon, vous connaissez tout ce que la Gemara a dit dans Eruvin, dans le traité Eruvin, dit que pendant trois ans, Beth Hillel et Beth Shammai étaient en marloquette, et ils n'arrivaient pas à trouver, donc le peuple ne savait plus qui suivre. D'accord ? Il y avait des gens qui suivaient un peu Beth Hillel, après Beth Shammai, après Beth Hillel, après Beth Shammai, c'était deux écoles, et on ne savait plus laquelle suivre. Jusqu'à qu'il y a une voix qui est sortie du ciel. Qu'est-ce qu'elle a dit cette voix qui est sortie du ciel ? Elle a dit, Elou va Elou, attendez, elle n'a pas dit comme ça. Attention. Elle a dit, Elou va Elou, dit vrai Elohim Chaim. Elle a dit, les paroles de Hillel et les paroles de Shammai, les deux sont les paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire, les deux sont vraies. Mais la halakha est comme Hillel. Si les deux sont vrais, pourquoi la halakha est comme Hillel ? Ça, la Gemara n'explique pas. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Quand il y aura le
ça sera comme ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que maintenant, alors, M. Sporty, c'est vrai ce que vous dites, M. Sporty, il nous dit que la Gemara et Rouvine, là-bas, elle dit qu'aujourd'hui, la halakha est comme Beth Hillel, mais lorsque ma chère viendra, la halakha sera comme Beth Shammai. C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui, je sais que la vérité sera comme Beth Shammai et je continue à faire comme Beth Hillel ?
Parce qu'on pouvait pas.
Il y a une seule vérité, non ?
Parce qu'on pouvait pas être comme Beth Shammai.
Ça veut dire qu'on peut pas. Alors, on a expliqué ça. Hein. Bon, on a expliqué ça dans le premier, dans l'introduction du Tania. Il a expliqué la chose suivante. Il a expliqué qu'en vérité, ce qu'on explique dans la Kabbalah, ce que l'Arizal explique, il dit qu'en vérité, Beth Hillel et Beth Shammai correspondent à deux niveaux, deux manières de servir à Kadosh Baruch Hu. Beth Hillel, il correspond à la manière de servir à Kadosh Baruch Hu comme le chesed, comme la bonté. Ça veut dire que bon, que même si des fois tout ne va pas trop bien, etc., bon, c'est la bonté, on accepte. Beth Shammai, il représente la manière de servir à Kadosh Baruch Hu par le din, par la sévérité, par la rigueur. C'est pour ça que quand on analyse les discordes qu'il y a entre Beth Hillel et Beth Shammai, on voit qu'à part 6 cas, d'accord, dans tous les autres dizaines de cas, c'est toujours Beth Hillel qui est le plus arrangeant et Beth Shammai qui est le plus contraignant. Pourquoi ? Parce que Beth Hillel représente le fait de servir à Kadosh Baruch Hu par le chesed, par la bonté. Donc ça, c'est un vecteur. Et Beth Shammai représente le fait de servir à Kadosh Baruch Hu par la rigueur. Quand je dis par la rigueur, c'est-à-dire par la sévérité, par la rigueur, la droiture. Et que si c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Normalement, on aurait tous dû servir à Kadosh Baruch Hu par la rigueur. Et c'est comme ça que ça se passera quand Mashiach viendra. Quand Mashiach viendra, c'est écrit que le grand Sanhedrin va se rassembler. Un Sanhedrin qui sera plus nombreux et plus puissant que le premier Sanhedrin qui a décrété donc que suite à cette voie céleste, l'Alaha sera comme Beth Hillel. Il y a un Sanhedrin plus grand que ça et qui va se rassembler et qui dira que selon la réalité de l'époque de Mashiach, eh ben, l'Alaha sera dorénavant comme Beth Shammai. Mais pourquoi ils vont dire ça ? Pas parce qu'ils vont dire bon maintenant on va vous casser les pieds, on est passé à l'étape supérieure. Parce que nous aujourd'hui, comme j'ai sporté jeudi, on n'est pas prêt, d'accord, en exil, même avant l'exil, même quand on avait le Beth Amikdash, spirituellement, on n'est pas prêt pour avoir le vecteur de Beth Shammai. Le vecteur de Beth Shammai, on n'a pas le droit à une seule erreur. Tout doit être carré, tout doit être parfait. Dès qu'il y a une erreur, c'est fini, tu perds tout. D'accord ? Normalement, on devrait être comme ça. Normalement, c'est la réalité des choses, mais on aurait dû être comme ça. Sauf que, comme Akadash Baruch Hu, il sait qu'on n'est pas en exil, donc qu'on est en exil et qui est difficile, donc il nous a permis de le servir par le niveau de Beth Hillel, c'est-à-dire le niveau qui est plus bas. C'est un niveau plus bas, le niveau de Beth Hillel. Mais en vérité, ça veut dire comme ça. Ce que je vais expliquer, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un de digne, de sévérité, d'accord ? Quand on parle à quelqu'un de sévérité, tout de suite, il a peur. Il dit, ah, la sévérité, j'ai peur, c'est la rigueur, c'est dangereux. Mais en vérité, si on voit la rigueur telle que je l'ai expliquée maintenant, selon Beth Shammai, que Beth Shammai, s'il est rigoureux, c'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il veut que les choses soient bien faites. Il y a des gens comme ça qui sont rigoureux. Ils veulent que le boulot soit bien fait, parfait. C'est pas parce qu'il est méchant. Et quand il va refaire faire le boulot, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il est rigoureux. Quand quelqu'un qui est rigoureux, il veut que le boulot soit bien fait parfaitement. Et si il n'est pas bien fait parfaitement, tu refais le boulot. Beth Hillel, Beth Shammai. Aujourd'hui, on n'a pas le niveau de Beth Shammai. On n'est pas à ce niveau-là. Mais quand ma chère viendra, on sera au niveau de Beth Shammai. Donc là, pourquoi je vous amène cet exemple-là ? Pour vous expliquer comment il y a des réalités qui changeront quand ma chère va venir. Pas parce que la Torah va changer, la Torah ne changera pas. Parce que, pourquoi il y a des réalités qui vont changer ? Parce qu'il y a des halachot qui suivront d'autres avis. Par exemple, si aujourd'hui on suit la vie de Beth Hillel, ben il y a des halachot qui changeront, parce que dans les réalités du futur, le din ne nous paraîtra plus contraignant, mais au contraire, il nous paraîtra, ça représentera la perfection. Vous voyez comment le din, très rapidement, on peut passer du din, quand on exprime le din, on peut passer de la contrainte à la perfection. Très rapidement. Contrainte à perfection. Donc c'est la même chose avec les Kohanim et les Lévi'im. D'accord ? Si aujourd'hui, nous on analyse les Kohanim et les Lévi'im, bon, on va dire, monsieur Cohen, c'est quoi ton job ? Mon job, c'est je prends le matériel et je le monte vers Dieu. Ah, ça c'est bien. Ça c'est à mon niveau, ça. Bon, moi je suis dans le matériel, je prends un animal et je vais essayer de sacrifier à Dieu. Bon, ça c'est accessible. On va aller voir Monsieur Lévy, on va dire, Monsieur Lévy, c'est quoi ton job ? Il dit, ah, moi mon job, c'est la musique. Ça veut dire que je monte vers Dieu et je redescends et je monte et je redescends et je suis constamment en train de vouloir monter et je suis constamment en train de vouloir redescendre. C'est trop compliqué, ça. Mais en vérité, c'est eux qui représentent le vrai service de Kadosh Baruch Hu. Parce que normalement, notre Neshama devrait constamment avoir envie, comme le tzaddik, de monter, et il faudrait constamment la retenir pour rester en bas. C'est comme une flamme. Comme l'exemple, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est la flamme. La flamme, pourquoi elle bouge, on expliquait la semaine dernière ? Parce que, elle veut constamment retourner vers sa base, retourner vers sa source, elle veut constamment quitter la bougie. Elle bouge, elle n'est pas tranquille. D'accord ? Normalement, on aurait dû être comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, comme on n'est pas au niveau, donc c'est vrai que si on analyse aujourd'hui dans le Beth Amikdash la différence entre le Kohanim et les Lévi'im, c'est bah oui, les Kohanim, ils ont le gros poste, et les Lévi'im, bah, c'est les chanteurs, la flûte, d'accord ? Alors qu'en vérité, c'est le contraire. En vérité, les Lévi'im, ça veut dire quoi ? Ça représente quoi la flûte, d'accord ? C'est quoi ces instruments ? Ça représente le fait que les Lévi'im, c'est ceux qui montent et qui descendent, c'est ceux que constamment ils veulent monter, et constamment ils se forcent à rester en bas. Et ça, c'est les Tzadikim.
Oui. Ouais. C'est pas plus simple de dire... que justement le Cohen représente l'aspiration vers le haut,
oui.
Et que le Lévi par la musique, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu matériel par rapport à l'esprit, et donc ça signifie que tu restes en bas.
Non, c'est pour ça que j'ai expliqué que dans la musique, c'est la même question. J'explique que le Cohen, ça représente l'aspiration vers le haut.
Ouais.
C'est nous. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, toute la journée, on est dans le matériel, dans le physique, et ben, on va dire, on va faire un effort pour qu'au moment de la prière, on va essayer de monter vers la Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Cohen. Comme le sacrifice. Deux fois par jour, on amène un sacrifice. Le reste du temps, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. D'accord ? Ça, c'est le Cohen, ça, c'est notre travail. Le Lévi, c'est autre chose. Le Lévi, on a expliqué, c'est Ratso Vachouf, c'est comme une courbe. Ça veut dire quoi, c'est comme une courbe ? C'est comme le tzadik. C'est pas que le tzadik est constamment en train de descendre. C'est constamment, on va amener des, on va expliquer plus longuement ça. C'est comme une flamme qui veut constamment partir, mais qui est retenue. Donc on a l'impression, quand tu vois la flamme, si tu vois de près une flamme, tu as l'impression qu'il y a un combat. Qu'elle veut quitter, mais qu'elle doit rester. Elle veut quitter, mais elle doit rester. Et c'est pas un asie, bon, puisque de toutes les façons je dois rester, alors reste tranquille. Elle restera pas tranquille. La flamme bouge toujours, toujours. Il n'y a pas un instant où elle s'arrête de bouger. Pourquoi elle ne s'arrête pas de bouger ? Parce qu'elle est constamment, toujours, elle est partagée en deux. D'un côté, il y a quelque chose qui l'attire en bas. Et d'un autre côté, elle veut quitter. Elle veut quitter la bougie, elle veut partir. Donc c'est ça le Lévi et c'est ça le tzadik.
Oui, mais d'autre part, d'accord, le Cohen, par exemple, c'est lui qui fait
c'est
la
le tzadik de seconde, bien sûr. Oui, chacun
là,
a sa qualité.
Vient d'où vers le bas, là.
Oui, mais c'est parce que nous, on a besoin de Racha, on a besoin de faire descendre. Mais en vérité, à la base, si tu prends au stade ultime comme les Lévi, il n'y a pas besoin de faire descendre. Ils disent, nous, on veut tous monter en haut. Il n'y a pas besoin de nous faire descendre. C'est un effort pour eux de descendre.
C'est lui qui fait pardonner à Kippour.
Oui, bien sûr, le Cohen. Encore une fois, Kippour, le pardon. Le pardon, il est là pour qui ?
Oui, c'est du haut vers le bas.
Une seconde. Le pardon, il est là pour qui ?
Il est là pour les gens.
Pour des gens qui ont...
Qui ont fauté.
Qui ont fauté. Encore une fois, donc c'est pour ça que toute l'histoire du Cohen, ça s'adresse à la réalité de la galoute, à la réalité avant Mashiach.
Ah bah,
la réalité qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on faute et il faut redescendre et on fait un effort de donner un peu à Kadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir que chez le tzaddik, c'est complètement contraire. Chez le tzaddik, c'est pas un effort pour lui de donner pour Dieu. L'effort pour lui, c'est de redescendre sur terre. C'est pour ça que j'ai raconté l'histoire de Rava et Rabbi Zera, dans laquelle on a vu que pour Rabbi Zera, de partir de ce monde, c'était tchac-tchac. L'effort, c'était de le faire revivre. Et c'est pour ça que l'année d'après, il a dit, écoute, je sais pas comment ça va se passer. C'est pour ça qu'on a raconté aussi l'histoire de Nadav Aviou. L'effort pour eux, c'était pas de partir, c'était de revenir. Et c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, on va se focaliser sur Ratso et Shov. Si pour nous, l'effort, c'est quelquefois, c'est d'essayer de quitter, je ne sais pas, au moins quelques fois par an ou quelques fois par jour, d'essayer de quitter le matériel et de s'approcher vers la Kadosh Baruch Hu. Donc notre effort va s'exprimer sur le Ratso, sur l'aller.
On est Cohen à ce
d'accord moment. On est Cohen. Chez les Tzadikim, leur effort n'est pas sur ça, leur effort est sur le chauve, sur le retour. L'aller, il est, c'est automatique l'aller. Ils veulent partir. Leur effort, c'est de chauve, c'est de revenir. Vous allez voir, on va lire dans les mots et on va mieux comprendre.
Mm-hmm.
Donc, vers vos dates, allez-y, vous avez dans les mots. C'est bon, vous avez ? Va'avodat alevi, donc je suis après les crochets.
Cool.
Les premiers crochets. Va'avodat alevi, aïta, le service des Lévi, aïta, il était les harim, kol rina, vetoda, veshira, vezimra. C'était quoi le travail des Lévi ? Le travail des Lévi, les Lévi devaient chanter, ils devaient remercier, veshira ou vezimra. Donc on a expliqué, ils étaient en train de chanter, d'accord ? Benigun ou vinirima. Donc c'est que ça, c'est quatre termes différents pour expliquer le chant. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé toutes les possibilités du chant. Il y a quelqu'un qui peut chanter sans parole, quelqu'un qui peut chanter avec parole, il y a le chant, il y a la mélodie, enfin il y a plusieurs catégories de chansons. Bibrinat Ratsovachov. Et qu'est-ce que c'est une chanson, comme ce que je viens d'expliquer ? Qu'est-ce que c'est une mélodie ? Dans une mélodie, on est obligé d'avoir un haut et un bas. Quand vous écoutez bien une chanson, si vous analysez la chanson, d'accord, vous allez remarquer que dans la chanson, il y a des courbes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça redescend, et des moments où ça monte, des moments où ça redescend. C'est sûr qu'il y a une structure dans la chanson, mais il y a des courbes. Une chanson qui ne fait que monter. Imaginez-vous une chanson où on démarre d'un point, et on fait que monter, monter, monter. Elle ne veut rien dire, la chanson. Imaginez-vous la note, on fait do, ré, mi, fa, sol, et tu t'arrêtes, comme ça, tu fais que monter, elle ne veut rien dire, la chanson. Qu'est-ce qui fait la beauté de la chanson ? C'est qu'on monte, on descend, on monte, on descend. C'est ça qui fait la beauté d'une chanson, on est d'accord ? C'est les vimes.
La mélodie.
La mélodie. D'accord ? Qui c'est qui joue de la musique ici ?
Gizmond Joy, je
crois. Vu la musique,
il est modeste.
Qu'est-ce que tu joues comme musique ?
Il prend la guitare, il prend
les... Alors moi je joue le piano. Alors.
T'as des mains de pianiste ?
Qu'est-ce que tu fais toi ? Batteur ?
Ah d'accord. Pourquoi batteur ?
Je sais pas, il m'a dit on va faire un groupe, moi j'ai entendu guitare.
Tu joues le piano, tu as le temps ?
Pardon ?
Tu continues là ?
Non, aujourd'hui non. Quand j'étais enfant. Alors, en tout cas, donc la musique, d'accord ? Dans la musique, on voit que... C'est quoi la musique ? Dans la musique, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, d'accord ? Et qu'est-ce qui... Donc ça, c'est les notes. C'est-à-dire que ça va en montant.
Ah ouais.
Mais si tu fais que monter ou si tu fais que descendre, ça veut rien dire. C'est la variété qui va faire la beauté, surtout dans la guitare. Hein, si tu varies pas, ça veut rien dire. Si tu fais que monter, bah, ça veut rien dire. C'est comme les enfants, ils prennent la guitare et ils tapent comme ça d'un coup, ça veut rien dire. Bah, d'accord ? Il faut monter, descendre, etc. Bon. Alors, donc il dit, comment on fait comme ça ? Hein, comment on fait hein ? Comment on fait dans la guitare ? Vodat alevim, aït, donc il dit, biprina dratsoveshov, chez iprinat avaza, c'est quoi donc le travail des lévim, le service des lévim, c'était de servir à Kadosh Baruch Hu par l'aller-retour. Donc c'est comme les tzadikim, encore une fois, on peut pas bien comprendre ça, mais apparemment, pour vous imaginer un tzadik, imaginez que c'est exactement le contraire de nous. Pour nous, on est constamment dans le matériel, et notre effort, c'est d'essayer de donner un petit effort spirituel, chez le tzadik, c'est le contraire. Il est constamment dans le spirituel et son effort, c'est d'essayer de redescendre sur Terre. C'est une autre ligue.
Cette nature n'est pas liée à la proximité qu'il a avec Akadosh Baruch Hu.
Bien sûr.
Ça veut dire que plus Akadosh Baruch Hu est présent, et plus on devient tzadik.
On est tzadik. Une personne naît tzadik. On a expliqué qu'on peut pas. Ça veut dire que si une personne a travaillé toute sa vie et qu'il n'est pas devenu tzadik, ça ne veut pas dire qu'il a fait quelque chose de tordu. Le tzadik, c'est un don d'Akadosh Baruch Hu. C'est des gens qui sont plus attachés au spirituel qu'au matériel. C'est où on est tzadik, d'accord, ou on n'est pas tzadik. D'accord.
Le Kohen, c'est la même chose aussi. C'est la Kadosh Baruch Hu qui décide aussi.
Bien sûr. Donc il dit Keshal Evet Ayotse Mina Bezek. Comme la flamme, d'accord, Ayotse Mina Bezek, comme la flamme qui sort, donc Mina Bezek. Alors on va expliquer ce que c'est.
Excuse-moi.
La Gemara, elle dit comme ça. Quand on parle de la prophétie de Ézéchiel, d'accord, là-bas, on raconte que. Quand on parle de la prophétie d'Ézéchiel, on dit là-bas que Ve'achayod Ratso Vashov, d'accord. On dit là-bas que Ézéchiel, quand vous savez la fameuse prophétie d'Ézéchiel oui. qu'on lit le premier jour de Shavuot, là-bas Ézéchiel il raconte, il dit que il voyait des animaux qui étaient Ratso Vashov, qui faisaient un aller-retour. Ratso Vashov, Ratso ça veut dire qui faisait un aller et Shov c'est un retour. D'accord ? Et là-bas il dit que ça avait le look d'un flash. Gemara à Bezek, c'est comme un flash. Alors Gemara elle pose la question, elle dit c'est quoi comme le look d'un flash ? Alors elle donne un premier exemple. Elle dit c'est quoi comme le look d'un flash ? Elle dit, c'est comme une flamme, d'accord ? C'est comme une flamme, elle dit, c'est comme, pour s'imaginer ce que ça veut dire, elle dit, prenez l'exemple d'une fournaise, d'accord ?
Oui,
une fournaise.
Oui, oui.
Et dans une fournaise, on voit tout de suite qu'il y a, il y a les flammes qui montent et qui descendent. D'accord ? Ça veut dire, en vérité, ça, on le retrouve aussi dans une bougie, sauf que dans une bougie, c'est une échelle beaucoup plus petite. Donc, pour vous imaginer, essayez de vous imaginer une fournaise. Vous avez déjà vu un grand feu, un feu de lac Baomer, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on voit dans le feu ? Quelle direction on voit dans le feu ? On voit que le feu, il monte et il descend. On voit qu'il n'arrête pas de monter, il monte, il descend. On donne un autre exemple aussi, là-bas, la Gemara donne un autre exemple. Elle dit que ceux qui avaient l'habitude de travailler l'or, donc les orfèvres, comment ils faisaient pour travailler l'or ? Elle dit qu'ils avaient l'habitude de faire comme ça. Ils prenaient un ustensile, ils prenaient une plaque en fer très solide, avec des trous. Dans cette plaque, il faisait des trous. D'accord ? En dessous de cette plaque, il mettait du feu très fort. Et du coup, quand tu voyais la plaque, d'accord, tu voyais des petites flammes qui n'arrêtaient pas de sortir, des étincelles qui n'arrêtaient pas de sortir. Sur cette plaque, l'orfèvre, il mettait des gants ou quelque chose comme ça, et il travaillait l'or. C'était une technique qu'ils avaient à l'époque. Je ne sais pas comment on fait aujourd'hui. J'ai aucune idée comment on fait aujourd'hui, mais en tout cas, c'était la technique qu'ils avaient à l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient une plaque, c'était une plaque très chaude. D'accord ? Mais ce qui était intéressant quand on voyait cette plaque, c'est que toutes les quelques secondes, tu voyais une petite flamme comme ça qui sortait par le trou. Tu la vois, elle sort, elle rentre. Elle sort, elle rentre. D'accord ? Et là-bas, la Gemara a dit que quand le prophète Ézéchiel raconte cette fameuse prophétie, c'est comme ça qu'il a vu. Quand il a vu le char céleste, c'est exactement la même image qu'il a vu. Il a vu une image de flamme qui rentre et qui sort. Alors c'est vrai que bon, peut-être quand on voit le feu de l'Ak Baomer, quand on voit une fournaise, enfin quand on voit beaucoup de feu, c'est vrai qu'on voit pas, on voit que ça monte et ça descend, mais on voit pas comment ça rentre et ça sort. Là, dans cet exemple, la Gemara a dit que celui qui voit ça, je sais pas comment on fait aujourd'hui, mais en tout cas celui qui voyait ça, il voyait clairement comment la flamme elle rentre, elle revient, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, elle fait que rentrer et sortir. Et le prophète Ézéchiel a raconté, il a dit que c'est exactement comme ça que ça se passait dans le ciel. Ça c'est les tzadikim. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, vous voyez un tzadik, vous voyez. Ses yeux, il s'éclaire à un moment, après t'as l'impression qu'il s'éteint. Il s'éclaire, il s'éteint.
Quand il s'éclaire, c'est quoi ? C'est la lumière qui monte ?
Quand il s'éclaire, ça veut dire a priori qu'il redescend sur Terre.
Qu'il redescend sur Terre ?
Bien sûr. Quand il s'éteint, ça veut dire qu'il est ailleurs.
Il est ailleurs, il est ailleurs, très bien.
Et ça, on le voit clairement. Hein. C'est des choses que, enfin moi, de mes yeux, j'ai déjà vu. J'ai vu clairement comment des fois, même les tzadikim, ils sont, tu vois, par exemple, tu prends l'exemple du rabbi, il y avait des fois des moments où tu avais l'impression qu'il était ailleurs. ça, on le voit, c'est quelque chose qu'on retrouve, si je ne me trompe pas, chez tous les tzadikim. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, chez pour eux, l'effort, c'est de descendre. L'effort, c'est pas de monter. Donc, ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours, parce que par défaut, ils sont en haut. Ils sont constamment en train de faire un effort pour redescendre. Mais des fois, ça remonte.
Ça ressemble au Bnei Israël, qui était au Mont Sinaï. C'était pas tous des tzadikim, mais pourtant, ils ont eu, on dirait que c'est plus un rapport avec la présence divine. Plus la présence divine est là, et plus on est tzadik, plus on a cet attribut, mais pas la nature de la...
Tu veux dire, plus on est conscient de la présence divine.
Mais forcément, la
Neshama... Parce que la présence divine, elle est là.
Non, mais Archinaï, c'est spécial.
Si tu veux, ok.
Non, mais c'est ça la différence. Oui, c'est...
Non, mais attends, Archinaï,
je te dis pas du tout. Ce que je suis en train de dire, j'ai fait attention à ce que je dis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui fait la différence entre le tzadik et moi...
Le clairvoyant.
Voilà. C'est pas que le tzadik a Dieu qui se dévoile à lui, et Dieu se dévoile pas à moi. Non, Dieu se dévoile à tout le monde. Sauf que le tzadik le voit, et moi, je le vois pas. Donc c'est la conscience de l'homme qui fait la différence.
C'est sûr ?
100%.
D'accord. Alors, par exemple, quand les gens étaient en Égypte...
C'est ça qu'on a expliqué. Qu'est-ce qu'on a expliqué à 3 semaines ? On a expliqué qu'en vérité, toutes nos neshamot, d'accord, sont au monde de Bria. Mais on ne le sent pas. Alors que le tzadik le sent.
Oui.
D'accord ? Bon. Alors...
Le dévoilement Archinaï, il était plus fort qu'en Égypte.
Oui.
Alors... Non, mais le dévoilement de Dieu, pas
oui, d'individu. Oui, bon, oui.
Donc ce qui veut dire, c'est ça sa question. C'est qu'à un moment donné, Archinaï...
Bien sûr, oui.
Comment la présence de Dieu, elle était plus proche que le Neshamot.
C'est pas forcément assurés. Qu'elle est plus proche, c'est qu'elle est plus... On la ressent plus. C'est une erreur de dire qu'elle est plus proche. Parce que Dieu est toujours là.
Alors, quelle différence
même, d'abord, il y a un moment qui était plus fort encore
que
la traversée de la mer Rouge.
D'accord.
Et même là, quand on parle de traversée de la mer Rouge, on dit qu'à ce moment-là, la nouveauté, c'est qu'on a vu.
Oui.
C'est vrai qu'on a vu.
Ça veut pas dire plus que
voilà, on parle de la vue, de la vision. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de te dire ici qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé. Il n'y a rien de nouveau qui s'est passé. C'était déjà Dieu est toujours là. C'est pas que Dieu il dit ah maintenant je vais descendre, je vais penser à vous. Dieu est toujours là.
Alors.
Ce qui s'est passé, c'est que Dieu est descendu vers nous. C'est-à-dire quoi Dieu est descendu vers nous. Ça veut dire qu'on l'a vu Dieu.
Non mais c'est lui qui est descendu.
Non, encore une fois. Bon, je peux pas trop m'arrêter dessus.
Ouais.
Si vous voulez dire quelque chose.
Oui.
Comment ça
Tu comprends ce que je veux dire ? Ça veut dire que c'est, quand on dit que Dieu est descendu vers nous, c'est une image pour dire que nous on a vu Dieu plus, mais Dieu ne change pas.
Non mais que Dieu change pas, je suis d'accord.
Et voilà,
mais si Dieu change pas,
il change là.
Il peut la faire changer.
Non, il change pas. Dieu il change jamais. Ce qui change, c'est comment nous on va percevoir un Kadosh Baruch Hu. Bon, je peux pas trop rentrer dedans, ça c'est un autre sujet encore. Il dit la de Mourazaken, je suis très conscient. Que ce deuxième niveau qu'on est en train de t'expliquer, nous on est des gens de premier niveau, nous déjà on essaye de servir à Kadosh Baruch Hu de temps en temps, on essaye de quitter un peu le matériel de temps en temps, et là apparemment on parle des gens qui sont complètement d'une autre dimension, on essaye de comprendre ce qu'ils ressentent mais on a du mal. On dit Admor Hazaka, il nous dit, Iyef Char Lever Inyanze Etev Mirtav. Il nous dit, on peut pas trop expliquer ça par écrit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière vous rappelez, vous avez lu le Hor HaChaim à Kadosh, dans le texte, et là-bas le Hor HaChaim disait la même chose. Il disait, on ne peut pas trop l'expliquer. Même chose, d'accord ? Alors là, l'Admor Hazaken dit, on ne peut pas trop l'expliquer par écrit. C'est-à-dire qu'apparemment, celui qui vient le voir, il pourra peut-être l'expliquer. Bon, ça il a dit Mirtav en hébreu, c'est-à-dire par écrit. Ça, c'est difficile à expliquer. Pourquoi c'est difficile à expliquer ? Parce que c'est subjectif, ça dépend de chacun. D'accord ? Le Kohen, c'est facile, le Kohen, il fait un sacrifice, il donne quelque chose à Dieu. C'est facile, c'est défini, c'est clairement défini. Mais le Lévi, c'est difficilement définissable. Ça veut dire quoi ? T'as l'impression qu'il monte, il descend, il monte. On a du mal à le définir, on a du mal à le cerner. Le Lévi, c'est celui qui ne peut pas cerner, c'est comme le tzadik. Vous savez, il y a beaucoup de gens, des gens très intelligents, et j'ai entendu plusieurs témoignages, qui disent que lorsqu'ils vont voir le tzadik, d'accord, ce qui les a déstabilisés, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à cerner le tzadik. C'est-à-dire que c'est des gens très intelligents. Qui sont capables de cerner une personne. C'est-à-dire, dès qu'ils vont voir une personne, même un président, ils sont capables de le cerner. Puisqu'ils sont capables de le cerner, ça veut dire, je me situe par rapport à lui. Donc, puisque je me situe, ça veut dire, bon, lui, il est là, moi, je suis là. Donc, ça va, tout va bien. Le problème qu'ils ont quand ils vont voir un tzadik, c'est qu'ils n'arrivent pas à se situer, ils n'arrivent pas à le cerner. Et c'est justement le problème. Pourquoi ils ne peuvent pas le cerner ? Parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même ligue, ils ne sont pas du tout dans le même monde. Le tzadik, il est dans le monde de Ratso Vachov, c'est-à-dire qu'il est constamment en train de faire des allers-retours, alors que nous, on n'est pas du tout dans ce monde-là. Nous on est constamment en bas, et si des fois on peut faire un effort pour monter un peu vers Dieu, c'est pas mal. Donc il nous dit, ça peut pas trop s'expliquer. C'est presque pas définissable. Donc, on peut pas le définir dans des mots. Rakol ish nilvav venavon amaskid al davar ou ma'amik le kasher nato utvunato bashem in tsatov ve or aganus benavshu amaskelet kolfum le shifum shiuradile. Je me dis que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, et c'est un élément qui est subjectif. Pourquoi c'est subjectif? Parce qu'il nous dit « Yesh mitpael, roulez, yesh mitpael ». Parce qu'on voit bien dans les différences entre les gens, on voit même quand on donne un cours, par exemple, d'accord? Quand on fait un cours et qu'après on va demander « qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le cours ?», t'as une personne qui va plus être marquée par un point, et une autre personne qui va plus être marquée par un autre point. Des fois, t'as des gens qui vont être marqués par l'histoire, t'as des gens qui vont être marqués par ce point du cours, par un autre point du cours. Chacun, il va être marqué par un autre point. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la logique, la nature humaine, le fait qu'on n'est pas, on n'a pas conçu de la même manière. Donc c'est pour ça, nous dit l'Admor HaZaken, par définition, on ne peut pas définir ce niveau, de, ce niveau du tzadik. Pourquoi on ne peut pas définir? Parce que les tzadikim sont différents. D'accord? Et qu'est-ce qui va marquer, qu'est-ce qui va me marquer chez un tzadik va être différent chez chaque personne. C'est subjectif, c'est pas la même chose chez chaque personne. Yesh mitpel, yesh mitpel. Tu as une question, Guy? Hein? Harek dimat ir atret liot surmera betachlit chez le liot avenotechem avdilim chas veshalom. Bien entendu, d'accord. Attention, ça c'est une petite parenthèse en vérité, qu'on rappelle ce qu'on avait dit dans le chapitre 41, que même le tzadik qui va servir à Kadosh Baruch par amour, même si on parle beaucoup de servir à Kadosh Baruch par amour, mais évidemment le tzadik est très conscient du principe qu'on a expliqué dans le chapitre 41, que la base de tout c'est la crainte de Dieu. Pourquoi la base de tout c'est la crainte de Dieu? Comme ce qu'on a expliqué, que si une personne base tout sur l'amour, alors on peut faire des erreurs. C'est que des fois quand on aime quelqu'un, on croit que si je veux modifier un petit peu une règle, il acceptera mieux. Alors qu'en vérité, moi, je ne veux pas revenir dessus, mais on avait expliqué que quand on craint Kadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, je sais que je n'ai pas le droit de déroger à la règle qu'Akadosh Baruch Hu a donnée. Ça c'est une parenthèse. Maintenant on reprend un Veiné Seder Avoda. D'accord? Donc là, maintenant, on va s'arrêter, Veiné Seder Avoda, on va expliquer un peu mieux ce que le tzadik ressent. Encore une fois, il a dit que c'est difficilement. Je vais un peu vite, parce que bon, ça concerne les tzadikim. Il a expliqué que c'est difficilement définissable par écrit, mais il va quand même nous donner une définition, parce que c'est trop facile de dire, bon, on ne peut pas expliquer, laisse tomber, c'est tout. Il va quand même essayer de nous donner une définition. Qu'est-ce que ressent le tzadik? Et la définition, ça va aller dans la même direction que j'expliquais tout à l'heure, entre Ratso et Shov. Ratso et Shov. Ratso, rappelez-vous, Ratso c'est Ratso c'est l'aller, d'accord? Et Shov c'est le retour. Ratso ça vient du mot Ratson. Ratson la volonté, l'aspiration, d'accord? Donc j'ai envie de monter vers quelque chose. Et Shov ça vient du mot Shuva, d'accord? Shuva Hashem Azmatai, d'accord? Ça veut dire retour. Teshuva, retour, d'accord? Shuv, retour.
Ouais, volonté pour Hashem c'est le contraire, c'est le descendre.
Deux secondes. Donc il y a Ratso et Shov. Donc il dit, chez la personne normale, c'est quoi le travail le plus difficile? C'est pas de redescendre, c'est facile ça. Après qu'il a fait son cours, tu lui dis, bon maintenant viens, on va faire une bêtise. C'est pas de problème, tout de suite tu redescends. Chez le tzadik, il dit, veine, seder avoda, bese katora va mitzvot, anim shechat nitrinata va azazo. La manière comment un tzadik travaille, ça veut dire que la manière comment un tzadik travaille, sur quoi va être son effort principal? Hi bitrinat shuv levad. Ça va être principalement sur le plan du chauve. C'est très fort ce qu'il est en train d'expliquer ici. Prenez par exemple une personne qui va mettre les tefillin.
C'est le pain et le beurre.
D'accord. Prenez par exemple, c'est encore plus fort que ça. Prenez par exemple un exemple, une personne qui va mettre les tefillin. D'accord. Nous, pourquoi on met les tefillin? Pourquoi je mets les tefillin? D'accord. Je mets les tefillin pour m'attacher à Dieu. Parce que je vis dans un monde matériel. Et je pense que quand je vais mettre les tefillin, ça va me permettre de monter un petit peu vers la Kadosh Baruch Hu. Ça va être un petit peu comme le Kohen qui amène son sacrifice. Très bien. Ça veut dire que moi, la mitzvah que je suis en train de faire, me sert à quitter le matériel. D'accord ? C'est mon sacrifice, exactement. D'accord ? Chez le tzadik, quand le tzadik met les tefillin, c'est le contraire.
Il fait la même chose.
Pourtant, c'est la même mitzvah, c'est les mêmes tefillin. D'accord ? Et pourtant, quand le tzadik met les tefillin, c'est le sentiment contraire. Le tzadik, il est déjà en haut. À quoi lui servent les téfilines? Les téfilines vont lui servir à essayer d'exprimer son amour qu'il a envers Dieu dans du matériel. C'est une descente pour lui. Parce que les téfilines, c'est du physique. Pour le tzadik, d'accord, les téfilines va exprimer un retour. Pour nous, il va exprimer un aller. C'est les mêmes téfilines.
Effectivement, c'est compliqué à comprendre.
Ah oui. C'est pour ça qu'il dit que c'est compliqué à comprendre. Les mêmes téfilines qui, pour moi, expriment un aller. Par exemple, je donne un exemple. Le Shabbat, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est très dur à comprendre. Le Shabbat, qu'est-ce que c'est pour nous, le Shabbat? On arrête de travailler. On arrête de travailler, donc on va quitter le matériel. Pour le tzadik, c'est quoi le Shabbat? Retour vers le matériel. Parce que qu'est-ce qu'on va faire le Shabbat? D'accord? On va s'arrêter, on va manger, on va se reposer. Pour le tzadik, c'est un retour vers le matériel. C'est complètement contraire.
Pourtant, c'est la même mitzvah. Vous comprenez que c'est comme ce que j'ai expliqué au début du cours. Je dis, il y a des gens qui pensent, c'est quoi la différence entre le tzadik et moi? C'est une différence de quantité. Que le tzadik, il a 1 million dans le compte en banque, et moi, j'ai 10 000 euros. Ça, c'est la différence entre le tzadik et moi. D'accord? On a expliqué que c'est pas une différence de compte en banque. C'est deux ligues différentes, c'est pas du tout la même chose.
C'est dans ce que je veux dire.
D'accord? Les tfilines que moi, je vais mettre, ils me servent à quitter le matériel. Les tfilines que le tzadik va mettre vont le servir à descendre vers le matériel. Donc là bon, je sais pas si on a compris à 100%, mais au moins, on a compris que c'est pas du tout la même chose que nous. On a compris que c'est autre chose.
Il veut autre chose. Qu'on a rien compris.
On a compris ce qui se passe chez le tzadik. Que moi, je suis tout, mais c'est faire Yetira. Comme ce qui est écrit dans le Sefer Yetzirah, bon, vous savez que le Sefer Yetzirah, c'est un des livres les plus profonds de Kabbalah. Dans le Sefer Yetzirah, c'est un livre qui est très court, d'accord? Très court, mais très compliqué. Il dit la chose suivante là-bas, il dit, « Ve'im rat libera, si ton cœur est en train de courir, chouv le echad, retourne, d'accord, vers le echad. » C'est quoi echad? D'accord, echad, c'est Hachem. Donc il dit, « Si ton cœur est en train de courir, retourne chez Hachem. » Il veut dire quoi? S'adresse au tzadikim. Il lui dit, si tu sens que ton corps est en train de quitter, si tu sens que ton cœur, pardon, est en train de partir, tu sens que ta neshama est en train de partir, que tu es en train de quitter le matériel, chouv le echad, redescends au echad. C'est quoi echad? On a expliqué il y a 2 semaines. Echad, c'est Aleph, Chet, Dalet. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, qui descend en Chet, c'est quoi Chet? Les 7 cieux et la terre. Et Dalet, c'est les 4 coins, d'accord? Les 4 points cardinaux. Chouv le echad. Si tu sens que ton corps est en train de partir, retourne vers le echad, ça veut dire essaye d'exprimer ton amour vers la Kadosh Baruch Hu dans une dimension physique. Et là, tu vas te calmer. Là, c'est le pain et le beurre. L'exemple de la semaine dernière. Pirouche, ça veut dire im ratz libera. Ça veut dire quoi im ratz libera? Ça veut dire quoi si ton cœur est en train de courir? Teshuka ta nefesh. On parle du tzadik. Le tzadik qui a une envie de l'âme chez Belev Bechala Laimani. On parle de l'envie de la neshama lorsque la neshama a envie de quitter le corps. Le tzadik, à un certain moment, quand vous voyez qu'il est plus avec vous, c'est que sa neshama est en train de partir. At kalat anefesh mamash. Et comme dans l'histoire de Nadav Aviou, comme dans l'histoire de Rava et de Rabbi Zera, d'accord, que vraiment sa neshama est en train de partir. Comme le rabbi explique dans la Sira, il dit, Rabbi Zera est réellement mort. Il est mort, Rabbi Zera. Ça veut dire qu'il a bu du vin, Rabba lui a enseigné les secrets de la Torah, et il en est mort, physiquement. Le lendemain, on a dû faire la résurrection des morts. Pourquoi il en est mort? Parce que sa neshama est parti. Sauf que comme Rabba a maîtrisé la situation, il dit, bon, allez, c'est moi qui maîtrise, maintenant je te refais descendre en bas. D'accord? Bon, ça, c'est, vous savez, la Gemara a dit que le plus petit... Vous savez, quand on parle de Imar Shemo, j'ai même pas envie de dire son nom. D'accord? Bon, l'acrobate, d'accord? Quand on parle de lui, on dit que oui, il a fait revivre de mort. C'est vrai? Il a fait revivre de mort. D'accord? Il a été capable de faire revivre de mort. Vous savez ce que l'Agmara a dit? L'Agmara a dit que le Zoutreta Shebachou, Mechayametim, que le plus petit des Amoraim, le plus petit des maîtres de l'Agmara, était capable de faire revivre de mort. C'était un classique pour eux. Hein. C'est rien du tout pour eux. Il suffit de connaître la formule, tu connais la formule, tu sais l'utiliser, c'est fini. D'accord? Bon. En tout cas, donc il dit ici, si c'est quoi Ve'imrat Libera? Qu'est-ce que Dieu laisse faire Yetzira? Si ton cœur est en train de courir, ça veut dire quoi? Ton cœur est en train de courir. À la vie, il a été impressionné. Tu vois? Ça, c'est impressionné ce que je viens de dire. Lui, il n'a pas été impressionné. C'est ça ce qu'il a dit là de Morazaken, que c'est subjectif. Il y a une chose qui peut impressionner un et qui ne peut pas impressionner l'autre.
C'est normal, c'est un tzadik, pas pareil.
Mais non, justement, c'est exactement ça. C'est que chacun va être marqué par autre chose. Et il faut essayer de mettre un maximum de points pour essayer de marquer tout le monde. Alors. Donc, c'est quoi Ve'im Ratz Libera? C'est-à-dire quoi si ton cœur va courir? Le cœur, il va courir, ça veut dire que le côté droit, ça veut dire le Yetzer Tov, enfin le tzadik, a envie de quitter son corps et vraiment, il va mourir. Vraiment, il va quitter son corps, comme l'histoire des 2 enfants de Aaron. Ils vont vraiment mourir, ils sont vraiment morts de ça. Il n'arrive même pas à comprendre. Il a dit clairement, il a dit, bon, je ne peux pas trop te l'expliquer à l'écrit. Leishtaper el rekavia chaya chayim baruchu. Si on parle au tzadik, on lui dit monsieur le tzadik, si ta neshama a envie de... On parle au tzadik ou au chassid qui va passer aussi dans sa vie par une phase tzadik, si on suit l'histoire du rabbi précédent, qui est très très forte. Donc il dit si tu sens que ta neshama est en train de quitter ce monde, que tu sens que tu vas partir. Velatset nima asara begouf agoufni vegashmi. Tu sens que ta neshama en a marre d'être emprisonné dans ce corps matériel et physique. Vous voyez, des fois, on a la sensation, des fois, on en a marre d'être... On s'est dit, mais j'en ai marre d'être emprisonné dans un corps qui est là et qui me retient. J'aimerais bien ne pas être limité par tout ça. Bah, à ce niveau-là, on peut dire qu'on est comme un tzadik. À ce moment-là, on est comme un tzadik. Des fois, vous savez, des fois, ça arrive. Des fois, une personne dit, mais j'en ai marre que je suis limité par mon travail, mes envies, mes pulsions. J'aimerais vraiment être comme un tzadik. À ce moment-là, on peut dire qu'on est en mode tzadik. D'accord. Donc, azaï à ce moment-là. Sauf que nous, on aimerait bien être comme ça, mais le tzadik, il est comme ça. C'est-à-dire que le tzadik, lui, il suffit juste pour d'arrêter de se retenir, et il s'en va. Quand, vous savez, c'est comme ça me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait toujours un qui était très fort dans la classe, et chaque fois, quand il voulait se battre, il disait, il rentrait chez moi, il disait, retenez-moi, je vais lui casser la figure. Ça me rappelle. Et c'est comme le tzadik, enfin, les Avdil. C'est le tzadik qui dit, retenez-moi, je veux partir. Mais il est sérieux, ça veut dire, il va partir. Et ça, c'est le tzadik. Nous, on le voit pas, il va pas te le raconter, le tzadik. Mais intérieurement, c'est ce qui se passe. Il est constamment en train de... Ce Neshama veut constamment partir, comme les notes de la musique. Il monte, mais après, il faut qu'il redescende. C'est comme la courbe des notes de musique. Azaï, à ce moment-là. Zot Yeshiv El Libo. Qu'est-ce qu'il dit Sefer Yetzirah ? Il lui dit, si ton cœur est en train de courir, c'est-à-dire quand ton cœur est en train de courir, ça veut dire que tu sens que tu es la course, tu es dans une course effrénée vers le divin, tu sens que tu vas partir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Shuv l'Echad. Reviens à Echad. Ça veut dire quoi, hein ? Azaï à ce moment-là. Zot Yashiv El Libo. Il doit réfléchir à ce point-là. À quel point il doit réfléchir ? Il doit réfléchir au point Mahamar Azaï, ce que les Chachamim disent dans les Pirkei Avot. Dans le Pirkei Avot, chapitre 4. Le Pirkei Avot qu'on va lire en été, Bezant Hashem. Qu'est-ce qu'il dit dans le Pirkei Avot ? Là-bas, c'est écrit Al-Korchach Atachai. Al-Korchach Atachai. Là-bas, il dit la chose suivante. Il dit Al-Korchach Atachai. Tu vis contre ton gré. Val-Korchach Atamet. Et tu meurs contre ton gré. On a un chidour ici. Je ne pense pas qu'il y en a même un chidour derrière. Il y a un Mishnah. C'est une Mishnah très étonnante. Chapitre 4 de Pirkei Avot. À la fin du chapitre 4. N'est-ce pas, monsieur le Tzadik ? Le Tzadik, il a confirmé au Rajah.
Je ne rien parce que je vais me faire moquer par lui, c'est déjà mieux de rien dire.
Alors, là, tu serais retenu de dire ça.
Ce qu'il dit, c'est pas... Ce qu'il dit, c'est pas...
Non, c'est pas ce qu'il dit.
Bah, tu sais qui c'est qui ?
On connaît Yitzhak, non, Yaakov.
On connaît Yaakov.
Non, Yaakov, c'est moi.
Non,
c'est
aussi non qui, monsieur.
C'est aussi
qui. Non. C'est pour ça que je dis Gizmadja.
Oui, voilà. Tu dis Yaakov.
Ouais, ouais, c'est une blague. Il a compris, rigole, lui, il a compris.
Il dit comme ça. Il dit... Al yaftiracha Yitzhak. Et que ton Yitzhara ne te rassure pas. Ne te rassure pas en te disant Shahol, que l'abîme Bet Manos Salach, ce sera l'endroit où tu vas t'en sortir. C'est-à-dire que tu dis, bon, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas grave, on va mourir, et après on va mourir, il n'y a plus rien. Shal Korach Atamnotsar, puisque tu as été créé, conçu par tes parents, contre ton gré, ce que j'ai décidé avant d'être conçu, t'as rien décidé du tout.
Ah si, t'as les chamans étaient d'accord pour
d'accord. Personne n'a testé. On t'a pas demandé l'heure avant de te concevoir. Val Korach Atamnolad, on t'a pas demandé l'heure avant de naître. D'accord, c'est pas toi qui as décidé quand tu dois naître. D'accord, on lui a rien demandé. Val Korchach Atachai, le Neshama n'a rien demandé. C'est Dieu qui va décider en haut quel Neshama il va donner. Mais il n'a rien demandé, c'est les parents qui ont décidé. Et c'est Dieu qui va décider si l'enfant va naître. Val Korchach Atachai, et contre ton gré, tu vis. Val Korchach Atamet, et contre ton gré, tu vas mourir. D'accord. Val Korchach, et contre ton gré, Ata Ati Liten Din Vechashbon, Lifne Melech Malcha Malachim Akadosh Baruch Hu, contre ton gré,
tu
devras donner des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Alors les Mepharchim me posent la question, ils disent mais on ne comprend pas. D'accord. Bon, ils me disent que contre mon gré, je suis né, bon, je viens, d'accord, c'est vrai que contre mon gré, j'ai été conçu, ok. Contre mon gré, je suis né, ok. Contre mon gré, plus tard, je devrais donner des comptes, ok. Mais maintenant, on va parler d'aujourd'hui, d'accord. Tu me dis contre mon gré, je vis, et contre mon gré, je vais mourir. Alors, ça veut dire quoi contre mon gré ? C'est-à-dire que maintenant, je dois vouloir vivre ou je dois vouloir mourir ? Tu comprends ? Tu me dis, bon, la conception, je ne peux pas maîtriser. La naissance, je ne peux pas maîtriser non plus. Le compte rendu que je devrais rendre après 120 ans, je peux pas le maîtriser non plus. Mais on va parler de la vie et de la mort. Enfin, je peux les maîtriser, ça. Alors, tu me dis, contre ton gré, tu vis, et contre ton gré, tu vas mourir. Alors, j'ai fait quoi, alors ? Qu'est-ce que je dois vouloir ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu attends de moi que je veuille vivre ou que je veuille mourir ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Et là, il explique en vérité cette Mishnah, c'est une petite allusion, c'est un petit clin d'œil pour le tzadik. Qu'est-ce qu'on lui dit au tzadik ? On lui dit, contre ton gré, tu vis, et contre ton gré, tu meurs. Ça veut dire quoi ? On parle de la courbe du tzadik. La courbe du tzadik. Ça veut dire qu'à certains moments de sa vie, il doit se dire contre mon gré je vis, et à certains moments de sa vie, il doit se dire contre mon gré je vais mourir. En d'autres termes, le tzadik, d'accord, quand il est dans sa courbe, quand il est en haut de sa courbe,
il est pas presque, Saneshama va presque partir. Qu'est-ce qu'il doit se rappeler à ce moment-là ?
Contre ton gré, tu vis.
Contre ton gré, tu vis. C'est-à-dire, il faut redescendre. Et quand il est en bas, qu'est-ce qu'il lui rappelle, Saneshama ? Il dit, hé, mais attends, hé, oh ! Contre ton gré, tu vas mourir, donc il faut repartir. Donc la vie et la mort, encore une fois, c'est subjectif.
Toi, tu vas mourir si tu restes en bas.
C'est un petit clin d'œil pour les tzadikim, que la vie et la mort, c'est subjectif. On ne parle pas de la vie et la mort finale, d'accord ? Absolue. Quand on parle de la vie et de la mort, ça veut dire la vie et la mort, ça représente monter vers Dieu, descendre vers Dieu. Quitter le spirituel, revenir, enfin quitter le matériel, revenir vers le matériel. Ça c'est la vie et la mort. Et c'est ça que dit la Mishnah, elle dit contre ton gré tu vis, et contre ton gré tu meurs. Ça va correspondre à deux périodes de la vie du tzadik, qui peut se passer en quelques secondes, d'accord ? Bon, d'un côté, des fois il doit se rappeler que contre son gré il vit, et des fois il doit se rappeler que contre son gré il va mourir. Et c'est comme ça, c'est la courbe.
Oui, on avait vu dans un chapitre précédent.
Et donc, deux secondes, j'ai pas fini, excuse-moi. Donc, Jacob aime bien poser la question, il faut... Parce que les tzadikim, tu vois, c'est la courbe.
C'est la bonne question.
C'est la courbe, les tzadikim, ça veut dire que quand tu as une question, tout de suite, c'est... S'il laisse passer la question, après ça va redescendre.
Il a le droit à trois parcours. Déjà deux.
J'ai
le
droit à une troisième.
Ah, il a le droit à une troisième, attention, il a des crédits, lui. Mais tes crédits,
coûtent cher. Il a écoulé tous les crédits.
Non, parce que c'est...
Parce qu'il a trois unités, mais là, dans la première unité, dans le premier coup de fil, t'as déjà dépensé trois unités.
Ouais. Il est malin, c'est pour ça. C'est un tas de vie, c'est pas pour rien.
Bon, vas-y, alors, pose ma question après, alors.
Ouais, on va finir le développement. Parce que c'est déjà bientôt l'heure. Qui dit, parce que j'aimerais finir le chapitre, enfin, normalement on aurait dû faire ce chapitre en trois cours, mais bon, j'ai préféré le faire en deux cours, parce que déjà on parlait de tzadikim, je sais pas si ça nous concerne tellement, donc bon...
Ça nous concerne.
Oh, arrête d'être sur le modeste.
On le fait pas encore, mais
ça... Je ne me concerne pas. Alvaï que je sois un Benoni. Qui dit... Donc c'est quoi Non, c'est pas du tout de modestie. Tu sais, comme on dit, ça serait bien si on est des réchaïm imparfaits.
On est des rachats imparfaits.
Parce qu'un rachat imparfait, le niveau d'un rachat imparfait, c'est quelqu'un qui va fauter une fois de temps en temps.
Une fois de temps en temps ?
Une fois de temps en temps, une fois par an, une fois par deux ans, comme ça, il va fauter comme ça de temps en temps. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le rachat imparfait, parce que c'est quoi un rachat ? Un rachat, c'est celui qui a encore du mal en lui. Donc il est imparfait. Quoi le rachat imparfait ? C'est-à-dire qu'on dit, bon, il est imparfait parce qu'il a du bien de l'autre côté. C'est pas ça le tzadik imparfait. Plus qu'on a expliqué, moi je vais vous faire un petit, puisqu'on en a parlé. On a dit qu'il y a 5 niveaux. C'est quoi les 5 niveaux ? Il y a le tzadik parfait.
Tzadik imparfait.
C'est quoi le tzadik imparfait ?
C'est tzadik imparfait. Il tient le yetzara ligoté.
Non, attention. Le tzadik imparfait, je vais expliquer si ça ne te dérange pas.
Oui.
Le tzadik...
On a ton accord.
C'est quoi le tzadik imparfait ? C'est pas celui qui fait une petite avéra de temps en temps. Dans ce cas-là, c'est pas un tzadik. Le tzadik imparfait, c'est celui qui, chas v'shalom, il fera jamais une avéra. Mais de temps en temps.
Il a une envie.
Non, de temps en temps, même pas il a une envie. Le dégoût qu'il a envers le mal n'est pas aussi fort qu'il devrait être. C'est même pas qu'il a fait la vera. C'est que le dégoût, non, c'est pas qu'il se relâche. Le tzadik, il fera jamais de la vera, il fera jamais de bêtises, il est même pas intéressé. C'est pas ça son mérite. Le mérite du tzadik, c'est lorsqu'il redescend. Son mérite, c'est pas quand il fait pas de la vera. Mais pourquoi on l'appelle un tzadik imparfait, le deuxième catégorie ? Parce que, à certains moments, le dégoût qu'il a envers le mal n'est pas à 100%. Et sans dire, ah, celui-là, c'est un imparfait. Là, c'est le tzadik imparfait. D'accord ? Après, tu as le rachat parfait. Bon, celui-là, rachat parfait. Tu as le rachat imparfait. C'est quoi le rachat imparfait ? C'est celui qui n'est pas rachat à 100%, que des fois, il ne faut pas. Après, bien sûr, on a des nuances. Oui. Et le Benoni, c'est quoi le Benoni ? On a expliqué.
Celui qui ne fait pas de faute.
Chapitre 12.
Qui a une faute ?
Le Benoni, on a expliqué celui qui est au milieu. C'est-à-dire celui qui ne va jamais fauter. Mais que son Yetzer Tov et son Yetzer Hara se bagarrent. Donc il est ni rachat ni tzadik. Il est ni l'un ni l'autre. Parce que le rachat, son Yetzer Hara l'a gagné. Le tzadik, son Yetzer Tov l'a gagné. Sauf que des fois, il n'a pas gagné à 100%, mais il a gagné. Le Benoni, il est au milieu. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire d'Avera, mais il y a toujours un combat entre les Yetzer Tov et Yetzer Hara.
Bon.
Et
neutre.
Et l'autre ?
Neutre.
Ah non, c'est pas neutre, parce qu'il ne fait pas d'Avera. Il fait les mitzvot.
Voilà.
C'est une neutralité qu'on aimerait bien voir. Ça serait déjà pas mal, son Benoni. Ça veut dire que c'est celui qui ne fait pas d'avéra, qui ne fait aucune avéra, il n'a rien à reprocher, sauf qu'à l'intérieur, il a toujours un combat. Il est pour rien, il a un combat, qu'est-ce qu'il fasse ? Eh bien, on dit que c'est un Benoni. C'est pas un défaut. Il y a des gens qui sont conçus pour être sadiques, des gens qui sont conçus pour être au maximum Benoni. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui doit se dire le tzadik ? On revient à nos moutons. Qu'est-ce qui doit se dire le tzadik ? D'accord ? À nos moutons physiques, hein, parce qu'on est parti un petit peu en haut.
Ils sont spirituels, ces moutons, là.
C'est la courbe.
La courbe.
Qu'est-ce qu'ils disent ?
Ton mouton.
Qu'est-ce qu'il dit le tzadik?
C'est pas que t'as une question.
Je vous prends pas pour des moutons, je suis un mouton. Alors, qu'est-ce qu'il dit le. Qu'est-ce qu'on lui dit le tzadik? On lui dit si t'as Neshama, tu sens que t'as Neshama est en train de partir, reviens vers Echad. Comment il revient vers Echad? Qu'est-ce qui se passe dans le tzadik tzadik? Il doit se dire, contre mon gré, je dois vivre. Contre mon gré, je dois descendre. Donc, Al-Kochachatachai Begoufazé. Contre ton gré, tu vis dans ce corps. Les achayoto. Ça veut dire que la neshama, elle est là pour faire vivre le corps. Ah, mais moi, elle a envie de quitter. Mais t'as pas le choix, t'as pas donné le choix. C'est ça ce que veut dire la Mishnah quand t'as dit contre ton gré. Contre ton gré, c'est même si toi, t'as envie de quitter ce corps qui te casse les pieds et qui est contraignant, eh ben, tu dois, contre ton gré, tu dois rester. Les hamshir, chayim, elyonim, chaya, chayim, ensava, ukhul, mata. Alidé, torah, chayim, liot, dira, betartonim, la rzouzit, barab, krenat, dilouï. Qu'on lui dit au tzadik, contre ton gré, c'est ça la réponse, c'est ça l'enseignement de Nadav Aviou, que contre ton gré, tu dois redescendre. Ah, ça m'intéresse pas, ma neshama a priori préfère monter en haut. Sa neshama préfère monter en haut, il dit, ben non, contre ton gré, tu étais créé dans un corps physique. Si tu étais créé dans un corps physique, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu travailles avec le matériel, comme on l'expliquait plusieurs fois. Akadosh Baruch Hu veut que tu ailles chercher les étincelles qui se trouvent dans le matériel, dans le physique. Dieu, il veut que tu ailles mettre les tefilines. Et le tzadik, quand il met les tefilines, il dit, ah, ok, d'accord, le physique, bon, ok, on va descendre. C'est le contraire de nous, les mêmes filines. Kumo Shekatu Bezoar Akadosh, les Meve Echad Be'echad. Pirouche, Shaychud Anelam, Iye Biprinat Alma de Idgalia. Que, c'est quoi le but dans le but de notre monde? C'est, vous savez, dans la fin du. C'est quoi la dernière phrase qu'on dit dans la Ligne Shaber? On dit Bayom Aou Iye Hashem Echad, Ushmo Echad. Il dit, ce jour-ci, Hashem sera Echad et son nom sera Echad. Ça veut dire quoi? Hein, Yacob, explique-nous.
Vas-y,
Yacob, parce que toujours, quand on arrive à la fin de l'Alénou, vous remarquerez toujours, Yacob, il dit à voix haute, je ne sais pas ce qu'il dit avant, mais toujours, il dit à voix haute, « Vayamahou Yachem Echad Ushmo Echad ». Alors, ça veut dire quoi, Echad Ushmo Echad?
On parle de la présence divine.
C'est quoi Dieu qui est Echad et son nom qui est Echad?
Voilà, Dieu qui est Echad, on parle du monde supérieur.
Très bien.
Et que,
et c'est quoi le nom?
C'est le jour où le Mashiach arrivera, que la présence de Dieu...
C'est quoi le nom d'une personne?
C'est renommé.
Que la présence divine, sa présence...
C'est quoi le nom d'une personne, encore une fois? À quoi il sert le nom d'une personne?
Son essence.
Elle le connaît.
Je répète.
Oui, c'est renommé.
À quoi il sert? À quoi? À ce?
À
sa renommée, d'accord. Donc à quoi ça sert? Ça veut dire comme ça. Par exemple, toi tu t'appelles Yaakov. À quoi ça te sert le fait que tu t'appelles Yaakov? À pouvoir s'identifier. Pouvoir, t'as rien de mieux si tu veux, mais c'est pouvoir s'identifier.
Pas qu'à ça.
Seconde.
Bref.
C'est ça qui sert ton nom. Ça sert à te différencier d'autres personnes. D'accord? Donc ça veut dire que le nom est pour l'extérieur, le nom n'est pas pour toi. Mm-hmm. Est-ce que toi, dans ta tête, des fois, tu réfléchis, tu dis, ah, je m'appelle Yaakov. Je réfléchis pas, Yaakov, c'est pour les autres. D'accord?
Mais
d'accord? C'est-à-dire que le nom, c'est pour les autres.
Pardon? Lui, il se pose souvent la question. Hein.
C'est inconscient. Non, c'est inconscient, mais ce que je veux dire, c'est que le nom est fait pour les autres.
L'impact du nom est inconscient.
Attention. Seconde. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit Bayom Aou Iye Hashem Echad Ushmo Echad. Ce jour-ci, Hashem sera un. Et Shmo, c'est quoi le nom? Donc c'est quoi Hashem, on a dit? Ça veut dire les mondes spirituels, les mondes supérieurs. Et c'est quoi le nom d'Akadash Baruch Hu? Ça veut dire l'expression d'Akadash Baruch Hu extérieur, entre guillemets, ça veut dire les mondes matériels. Et lorsque Mashiach viendra, c'est là qu'on réalisera qu'en vérité tout ça c'est un seul Echad. C'est une seule chose. Et c'est ce que le tzadik se dit. Le tzadik, quand il a envie de partir, ça n'a jamais envie de partir. Qu'est-ce qu'on lui dit? Chouv le Echad, reviens vers Echad. Ça veut dire quoi, reviens vers Echad? Ça veut dire reviens pour accomplir ce but, qu'au bout du compte, on a envie que le Echad d'en haut et le Echad d'en bas vont former une seule chose, un seul élément. Le monde d'en haut et le monde d'en bas vont former un seul élément, que Akadash Baruch Hu sera présent en bas comme en haut. Donc là, le tzadik, il dit, bon, ben dans ce cas-là, ok, alors on va redescendre en bas. C'est ça ce qu'on dit au tzadik. Chouv le Echad, reviens vers Echad. C'est ce que le tzadik, il se dit quand il revient. Oui. Sinon, il revient pas. D'accord?
C'était ma question, je trouve.
Donc, basé, oui, c'est quoi la question?
Ça me paraissait logique, parce que normalement, ça devrait être le contraire. À savoir que la neshama de l'homme simple, comme elle est en bas, etc., et puis en bas, c'est difficile, etc., elle se bagarre avec le matériel, elle devrait avoir envie de monter. Et la neshama du tzaddik, comme on avait vu que plus le monde est matériel, et plus continue le spirituel qui est importante, on avait dit qu'une pierre, plus elle tombe de haut, plus elle fait un trou dans la terre,
la neshama
du tzaddik, elle devrait avoir envie
De l'homme simple, j'ai compris. La neshama de l'homme simple est attaché principalement au matériel. C'est nous les hommes simples.
Oui, mais la neshama de l'homme simple devrait voir ça et devrait vouloir les chercher.
Deux secondes. La neshama de l'homme simple, d'accord, elle est attachée au matériel, c'est-à-dire qu'elle vit dans le matériel.
Oui.
Donc l'effort pour elle, je ne parle pas de l'envie, l'effort pour elle. Bien sûr qu'elle veut quitter le matériel, mais oui. L'effort pour elle, c'est quoi? C'est de quitter le matériel, c'est ça son effort. Quand tu lui dis après un cours de Torah, tu lui dis maintenant on redescend dans la vie de tous les jours, c'est pas un effort. Regarde, remarque la différence. Quand tu viens à un cours de Torah, c'est un effort pour se plonger dans un cours de Torah. Prends quelques minutes. Tu viens de ta vie, de ta maison, etc. Il te faut quelques minutes pour plonger. Mais après le cours, quand tu dois replonger dans la vie, tu prends quelques secondes, ça. C'est très rapide. Pourquoi c'est très rapide?
Après un bon cours de Tania...
J'ai toujours dit que t'es un sadique.
Non. Alors, tout le monde peut le dire, je suis sûr. Quand tu fais un cours de Tania pendant deux heures, tu te concentres.
Bon,
là, tu redescends pas comme ça.
Même nous.
Oui ou non?
Mais c'est nous, on peut le dire.
Hein?
Tout le monde peut le dire.
Même nous.
Tout le monde, on peut le dire. Tout le monde.
Bien sûr.
Quand tu fais un effort, il faut un certain temps.
Il n'y a pas tort, parce que les Lévi'im, ils utilisent le montée et la descente.
Oui, mais nous, on n'est pas au niveau des Lévi'im.
Non, le tzaddik, oui.
Le tzaddik, oui. Ça veut dire que nous, notre niveau, notre effort s'exprime à quel niveau? Notre effort n'est pas pour redescendre sur la terre ici. Bah, c'est pas un effort, ça. Même si toi, tu veux dire, des fois, ça va prendre du temps.
Ça prend du temps.
Ça prend quelques minutes, mais c'est pas un effort.
J'ai pas dit que c'est un effort.
C'est pas un effort. D'accord? Chez nous, l'effort, c'est de monter. Après, bon, ça redescend, c'est automatique, ça redescend. Il faut remettre un peu d'essence pour que ça remonte.
Bien sûr.
Chez le tzaddik, c'est le contraire. Chez le tzaddik, lorsqu'il est en train de partir, il va se rappeler de dire non, chouv l'echad. Il faut que je redescende parce qu'il faut, Akadosh Baruch Hu, pour accomplir le but, il veut que je descende dans le monde ici-bas, il veut que j'aille chercher les étincelles en bas. C'est un effort pour le tzaddik. Et c'est ça ce que le Sefer Yetzirah dit. Si tu sens que tu es en train de quitter, chouv l'echad.
C'est que le point, on est tous des tzaddikim.
Excuse-moi, Yaakov, je dois finir, c'est déjà l'heure. Donc il dit, pirouche, vezeo shekatouv, c'est ce qui est écrit, les questions après. Vezeo shekatouv, c'est ce qui est écrit, l'echad odi. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? On dit l'echad odi likrat kala. D'accord? C'est quoi l'echad odi? D'accord? L'echad odi likrat kala, la kala c'est qui? C'est ce qu'on dit donc tout le vendredi soir. Le dodi c'est le bien-aimé, oui. Et la kala c'est nous.
C'est
et qu'est-ce qu'on dit? L'echad odi likrat kala. On demande au bien-aimé, donc à Dieu, de descendre vers la bien-aimée. Donc nous on a l'impression que c'est une demande qu'on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu. On dit Dieu descend vers nous. En vérité, il nous explique ici le Tania, c'est pas forcément une demande. Ça peut être un processus qui se passe dans la tête du tzaddik. Que le tzaddik dit, bon, maintenant, il faut que le bien-aimé descende vers la bien-aimée. C'est-à-dire que maintenant, il faut que mon spirituel descende vers mon matériel. Il faut que je descende, je m'occupe de mon corps. C'est ça le lecha dodi. D'accord? Donc vous voyez, l'entrée du Shabbat pour le tzaddik, c'est un effort de descendre vers le matériel. C'est exactement le contraire de chez nous. Vas-y, Yuvan, Namarazal, Alkor, Haratacha. Et donc avec ça, on comprend ce que les Haramim ont dit à la fin donc, du chapitre 4 de Pirkei Avot, ce que je viens de vous montrer. Là-bas, ils disent que contre ton gré, tu vis, etc. Et contre ton gré, etc. Vous savez, l'Admorazaka ne veut pas dire explicitement contre ton gré, tu vas mourir. D'accord? C'est très rare que l'Admorazaka dise une phrase négative. Donc quand il veut ramener la Mishnah, il dit contre ton gré, tu vis, et contre ton gré, etc. C'est-à-dire, tu connais la suite. D'accord? J'ai pas envie de la citer. Donc, Akoraratacha, il va Akorarouler. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Contre ton gré, tu vis, contre ton gré, tu meurs. Alors, qu'est-ce que tu attends? Que je veuille mourir ou que je veuille vivre? Qu'est-ce que tu veux? Je parle pas de la conception, ça je maîtrisais pas, mais ça, la vie et la mort. Je comprends pas, qu'est-ce que tu me veux? Et là, Erir et Tseno, Kumo Shekatou, Bemakom Acher, Barichut Al-Mishtazo, Akoraratacha, Bezra, Trayer, Chayim, Arokou. C'est exactement le concept qu'on a expliqué, que, en vérité, c'est le niveau de la courbe du Tseno. Je ne sais pas si le cours d'aujourd'hui va nous avancer quelque chose dans notre vie. Peut-être pour certaines personnes, oui, certaines personnes, non. Mais en tout cas, aujourd'hui, on s'est focalisé pour expliquer la différence qu'il y a entre le tzaddik et l'homme simple. La semaine dernière, on s'est focalisé sur l'or et l'argent. D'accord ? La semaine dernière, on a expliqué un premier point, un premier palier. Dans lequel on a expliqué que le tzaddik cherche constamment, on a expliqué longuement que le tzaddik cherche constamment
à monter,
et que son effort c'est de descendre, alors que l'homme, enfin le commun des mortels, il est constamment en bas, et que son effort c'est de vouloir constamment monter. Aujourd'hui, on a expliqué une autre facette, d'accord, avec les enfants de Nadav Aviou, avec l'histoire de Purim, on a expliqué sur une autre facette de Ratso et Shov, l'histoire de l'aller et du retour, d'accord, que si pour nous, l'effort, c'est-à-dire par défaut, on est en retour, et que l'effort, c'est par défaut, on est en gravité, on descend toujours, d'accord. On est toujours attiré, traction terrestre, on est attiré vers le bas. L'effort, c'est de monter. Chez le tzaddik, c'est le contraire. Chez le tzaddik, c'est une traction céleste, voilà, si on pourrait dire la différence. Chez nous, c'est une traction terrestre, donc l'effort, c'est de propulser vers le haut. Mais bon, tu envoies la balle, pour au bout d'un certain temps, dès que l'effort est fini, elle redescend. Alors si tu as lancé très fort, elle va prendre un peu de temps pour redescendre, mais elle va redescendre, par défaut. Chez le tzaddik, c'est le contraire. C'est la traction céleste. Il est constamment en train de monter. Alors des fois, on va lui envoyer un coup pour le faire descendre en bas. Ah bon, si le coup était fort, il va rester quelques instants en bas. Mais après, dès que la puissance du coup s'en va, plus elle s'en va et plus il remonte. Et c'est pour ça que le tzaddik, c'est constamment en train de monter et descendre. Chez nous, quand t'es en bas, il n'y a pas plus bas que l'abîme, comme on dit. En hébreu, on dit, il y a un proverbe qui dit, il n'y a pas plus bas que l'abîme. C'est-à-dire, une fois que tu es en bas, c'est fini. C'est pour ça que chez nous, on peut avoir des années dans lesquelles on ne bouge pas. Tu ne bouges pas. Pourquoi tu ne bouges pas? Parce que si tu n'es pas monté, bah, tu ne descendras pas. Tu restes en bas, c'est fini, tu es en bas. Chez le tzadik, comme le tzadik est constamment attiré vers en bas, et que s'il vit, s'il est resté vivant, ça veut dire qu'il a dû redescendre, ça veut dire que chez le tzadik, toute sa vie, il n'y a pas une journée dans laquelle il n'a pas fait de courbe. Parce que sinon, il serait parti de ce monde. Naturellement, par défaut, il est propulsé vers le haut. Et s'il ne fait pas cet effort de redescendre, il serait reparti. Il serait parti de ce monde-ci, il serait mort. Comme on a eu des exemples la semaine dernière, de tzadikim qui ont quitté ce monde-ci, d'accord, dans un état de... Je sais pas comment on peut appeler ça, dans un état de dzekout, on appelle ça. D'accord. Tellement ils sont attachés à Dieu qu'ils sont morts. On n'arrive même pas à comprendre. C'est pas une crise cardiaque. C'est tellement le matériel, tellement le spirituel, tellement ils sont attachés au spirituel qu'ils ont quitté le matériel. Ça, c'est le tzadik. Donc un tzadik est obligatoirement, chaque jour, s'il n'y a pas un jour où il ne passe pas par cette courbe.
Et tu penses qu'il y a un rapport avec le rabbi lorsqu'il a eu son attaque cardiaque ou ça n'a rien à voir? Je sais pas. Tu te rappelles de ça? Quand il a eu son attaque cardiaque, le médecin qui l'avait expliqué.
Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, il est déjà tard. Donc joyeux Pourim. Alors vous avez bien compris ce qu'on a expliqué. C'est qu'à Pourim, il faut dire les chayim. À Pourim, il faut boire.
Oui, mais il faut
boire. D'accord. Attention. Mais la boisson doit être là pour aider ce que je vous ai expliqué au début du cours.
Vous connaissez la limite.
On a dit que Rav et Rabbi Zera, ils ont bu. Mais la boisson doit être là pour nous aider à exprimer le spirituel. On s'arrête ici pour aujourd'hui.
Okay.